il est par les champs, à la belle des Iquines, marchaient les partisans blancs. À la belle des Iquines, marchaient les partisans blancs.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 2 mars 1994. Rediffusé dimanche 30 décembre 2012 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marie Le Pen.
Bonsoir cher ami, bonsoir.
Alors comme promis, vous êtes venu passer la première partie de l'émission avec nous, et puis si vous le désirez, vous pourrez bien entendu rester plus longtemps. Je donne quand même le programme pour les auditeurs, qui généralement d'ailleurs n'est pas tout à fait respecté, mais enfin, bon, ils sont habitués maintenant. Nous recevrons également Léon Arnoux, qui nous parlera d'une étrange affaire, on le reçoit de temps en temps, et il nous parlera d'une étrange affaire qui s'est passée à Taverny, qui est assez amusante, enfin édifiante. Puis Marc Dem, bien sûr, puis nous recevons Bernard Molinier, qui est écrivain et qui a publié notamment un livre sur la Nouvelle-Calédonie, nous en parlerons. Et nous recevrons Jean-Pierre Abillard 2 minutes ou 3 minutes, parce qu'il nous expliquera ce qui est arrivé aux paysans chrétiens qui avaient ouvert un lieu de vente à Paris et qui fait l'objet d'une persécution de la part des voisins, ce qui fait qu'il va falloir certainement qu'ils dépassent leur lieu de vente. Qui déplacent leur levante. Et puis nous recevrons Cécilia qui nous parlera de fleurs. Car Radio Courtoisie et Jean-Marie Le Pen, je crois, la seule radio libre, et même pas libre d'ailleurs, qui a créé une émission, une chronique consacrée aux fleurs. Ce qui est un sujet éminemment radiophonique, vous l'imaginez sans peine. Alors on va faire un tour de l'actualité, si vous en êtes d'accord. Si j'ai remarqué une chose, c'est que, au fond, quand vous venez nous voir dans cette émission, c'est assez rare qu'on fasse comme dans les autres émissions. On parle d'autre chose, on parle de culture, de musique, de vous, de votre vie. Mais on a, je crois, très rarement fait ce que font les autres journalistes, c'est-à-dire de vous interroger sur l'actualité. Et je pense que, pour une fois, on peut le faire, surtout que cette actualité est vraiment riche, c'est le moins qu'on puisse dire, en événements. Et l'événement le plus frappant de ces jours derniers, pour nous en tout cas, pour les Français aussi d'ailleurs je pense, ça devrait l'être, c'est certainement l'assassinat d'Yann Pia. Je sais que, en dépit de l'éloignement qui a pu se produire depuis quelques années, vous aviez pour Yann Pia beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse même. Et on a vu à la télévision d'ailleurs à quel point vous étiez touché par la nouvelle de sa mort. Mais je pense qu'on peut évoquer ça, et puis on pourra aussi évoquer ce que ça signifie au sens le plus fort du terme. Quel signe c'est pour notre société actuelle.
Oui, il est bien évident que dans un fait comme celui-là, il y a ce que l'on ressent comme homme et ce que l'on doit dire comme homme politique, n'est-ce pas? De la même manière, Yann Pia était une femme, une mère de famille et une femme politique. Bien sûr, j'ai connu Yann quand elle avait 6 ans. Par conséquent, elle était la fille d'une de mes amies. Et j'ai eu l'occasion de renouer avec elle quand elle était dans d'assez grandes difficultés, comme jeune fille, puis elle a été une des premières militantes du Front National, puisque son adhésion au Front National doit dater de 1975. Elle a occupé des fonctions, rapidement des fonctions importantes. Il est vrai que notre structure à l'époque était tout à fait diaphane, mais elle s'était engagée à mes côtés d'une façon très énergique, comme souvent les femmes le font, très passionnées aussi. Et elle lui avait été confiée une responsabilité importante à Toulon, à Hyères et dans le département du Var, puisqu'elle était secrétaire départementale du Var. Ensuite, elle a été, à la suite d'un déplacement professionnel de son mari, qui était pilote de chasse de l'aéronaval, elle est allée dans les Landes, et Landes, il n'y avait pas de fédération du Front National. Elle a créé la Fédération des Landes. Puis ensuite, la mutation militaire de son mari l'a ramenée dans le Var, où elle a de nouveau s'est vue confier la responsabilité de secrétaire départementale. C'est là qu'elle a été élue pour la première fois députée en 86, puis conseillère régionale, et elle a été réélue députée du Front National en 1988. Et là, il y a eu un certain nombre de divergences entre nous. Le Front National n'est pas un mouvement politicien, c'est un mouvement politique qui a une assez grande rigueur de règles internes, n'est-ce pas ? Et dans la mesure où elles n'avaient pas été respectées, Yann Pia a donc été écarté. C'est une règle que nous nous appliquons à tous. Néanmoins, bon, dans une circonstance aussi dramatique que celle-là, je pense d'abord au moment que nous avons passé ensemble, aux liens qui étaient les nôtres. On ne sait pas ce qui reste, d'ailleurs, ce qui subsiste au fond des âmes de ce que l'on a vécu dans le passé, mais il reste toujours quelque chose. Ce sont des morceaux de notre vie.
Je crois que, pardon de vous couper, mais pour en revenir aux conditions dans lesquelles elle a quitté le mouvement, je crois qu'on peut dire que, au fond, parler d'exclusion, c'est aussi abusif que de parler de porte claquée. Je crois qu'il y a une espèce de gentleman agreement qui s'est fait au moment où elle a pris des positions qui n'étaient plus les positions du mouvement et où, à l'évidence, le mariage restait plus possible.
La presse la raconte un petit peu des histoires, puisqu'elle dit qu'elle a été exclue parce qu'elle avait voté pour le RMI. Non, elle a été exclue parce qu'elle avait voté le RMI pour les étrangers, pour les immigrés. Ça, c'était un point de notre doctrine fondamentale. Vous savez que le Front National défend la préférence nationale. Voilà. Et puis, de toute évidence, elle avait à ce moment-là des fréquentations qui l'éloignaient progressivement de nous. Mais enfin, il n'y a pas eu de polémique, si vous voulez, sur notre... si ce n'est ce qui est utilisé par la presse et qui a été repris d'un livre qu'elle avait écrit, que je n'ai d'ailleurs pas répondu. Voilà.
Alors, vous parlez de la presse dans cette affaire. Bon, ça n'étonnera personne si on dit qu'une fois de plus, elle s'est montrée majoritairement ignoble, avec quand même une palme d'or pour certains journaux.
Une palme d'or pour François. François qui a titré de façon immonde Yann Pia, entre parenthèses, exclu du Front National, assassiné. Établissant un rapport à ma connaissance, que François a été le seul à suggérer d'une façon particulièrement immonde, car déjà, on devait savoir, si on est journaliste, on devait savoir quelle était l'atmosphère politicienne et comment dirais-je, gangsteresque de ce département, et qui n'est pas seul, il faut bien le dire.
Je dois savoir aussi que l'exclusion, puisqu'ils veulent parler d'exclusion, était vieille de 6 ans. Et que,
oui, c'est ça. Non, il fallait une insigne mauvaise foi, comme d'ailleurs ce journal, l'AFP d'ailleurs, qui a fait une erreur, et certains journaux se sont empressés de la répercuter, disant que M. Nicoletti, conseiller général, était un proche de l'extrême droite, alors que M. Nicoletti vient du Parti Socialiste, et qu'il est UDF, et même vice-président UDF du Conseil Général. Bon, alors, c'est un ami de M. Arex, c'est pas tout à fait pareil que d'être ami de M. Le Pen. C'est bien évident. Il y a une certaine incompatibilité. C'était ce qui, d'ailleurs, avait provoqué la rupture avec Yann. On ne pouvait pas être ami de Jean-Marie Le Pen et ami d'Arex en même temps, car n'oublions pas que M. Arex était en même temps un ami, ancien maire de Toulon et actuel président du Conseil Général, un ami intime du gangster Fargette, qui a été, vous le savez, qui a trouvé la mort mort lui aussi dans un contrat en Italie, mais qui était le parrain, le seigneur de la région d'Hyères et de Toulon.
Ses obsèques avaient été suivies par une foule immense de porte-flingues et de politiciens.
Et de conseillers généraux.
Il y avait quand même un signe qui était extraordinaire, c'est que sur le fourgon mortuaire de Fargette qui l'emmenait au cimetière et qui était, je le répète, suivi par la fine fleur de la politique varoise, il y avait une énorme couronne qui indiquait « tu étais le boss et tu le resteras à jamais ».
C'est l'union des flingueurs.
C'était tout à fait frappant.
D'ailleurs, n'est-ce pas, il faut bien voir que ce crime, cet assassinat odieux, affreux, révoltant, l'a été, ce n'est pas la première fois que cela se produit, en particulier dans le milieu UDF. Et quand vous parlez dans votre excellent libre journal, dans le Décadère, n'est-ce pas, libre journal de libéralisme...
De
libéral affairisme, je crois que vous mettez en plein dans la cible. C'est bien de l'affaire libéral affairisme qu'il s'agit. Il faut que les Français sachent que depuis la décentralisation ordonnée par Monsieur Defferre, eh bien, il y a eu une flambée de corruption, en particulier de corruption liée aux problèmes immobiliers. Tous les maires, tous les présidents de conseils généraux ne sont pas des affairistes ni des arcans, comme on dit dans le milieu, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes là dans le milieu. Mais beaucoup le sont devenus, hélas, et ceci fait régner dans le pays un climat absolument putride. Et évidemment, sur la côte, on sait très bien quels ont été les scandales. Et il faut bien tout de même se souvenir que le Front National a été le seul mouvement politique à pouvoir faire campagne en 1993 aux législatives sous l'affiche tête haute et main propre, et que personne n'a pu l'attaquer à cette occasion, et pour cause. Je dois dire, pour ajouter quelque chose à ce drame, que la vision de tous ces visages qui affichaient la tristesse et qui laissait couler beaucoup de larmes de crocodile était absolument révoltante. Car les criminels que dénonçaient les hommes publics qui prenaient le micro, c'était celles qui étaient créées par leurs amis politiques. Parce qu'il y avait là un certain nombre de ministres UDF. Or, les milieux corrompus et RPR, d'ailleurs, les milieux corrompus qui sont dans ce département sont des milieux RPR et UDF. C'est chez eux qu'il faut balayer, c'est chez eux qu'il faut mettre de l'ordre. Mais je dois dire que je n'ai aucune illusion, ayant pu vérifier la solidité des promesses gouvernementales en passant en Corse, on peut s'attendre à ce que, comme pour les Kurdes, n'est-ce pas, une fois que tout le monde aura été mis en garde à vue, tout le monde sera relâché et on mettra là-dessus un gros couvercle de béton, n'est-ce pas, on arrêtera peut-être deux truands, les assassins, je l'espère, mais ce ne sont pas eux les premiers coupables. Les premiers coupables sont ceux qui ont armé les bras, n'est-ce pas ? Ceux qui sont derrière, et ceux-là, on sait bien que dans notre démocratie 5e républicaine, on ne les trouve jamais. Les loups ne se mangent pas entre eux, et tout sera fait pour faire échapper l'UDF et le RPR à leurs responsabilités morales et politiques de premier plan.
Il suffit d'ailleurs de se référer au passé, parce que on entend parfois dire, les gens qui sont pas, disons, trop désagréables disent, il faut un certain courage pour militer au Front National aujourd'hui, c'est vrai, mais on peut dire en parallèle qu'il faut un certain mépris de l'existence pour militer à l'UDF, si on s'en réfère aux 20 dernières années. Si on prend les victimes au sein de ce parti, dont les assassins n'ont pas été identifiés clairement, ça devient quand même impressionnant. Ça commence par De Broglie, dont on a arrêté le porte-flingue qu'il avait descendu, mais dont on n'a jamais connu les commanditaires de l'assassinat, parce que les explications qui nous ont été données, c'était des romans chez la portière. Ensuite, il y a eu M. Fontanet, dont on a dit qu'il avait été tué par un automobiliste irascible. Moi, je connais pas mal d'automobilistes irascibles, il m'arrive d'en être un, j'ai pas un 357 Magnum dans ma boîte à gants. Et comme par hasard, il a été tué à la suite d'une énorme affaire immobilière qui concernait la Savoie, sept mois avant que son bras droit, M. Gonnard, ne fût poignardé presque mortellement. Il s'en est sauvé par miracle pour les mêmes raisons. Ensuite, il y a eu M. Boulin qui avait été mouillé par la mafia de la santé publique dans une affaire immobilière avant d'être assassiné, parce
mais
que
je partage avec Madame Boulin l'opinion, et je l'ai toujours partagé, que Monsieur Boulin avait été assassiné.
C'est évident. Enfin, moi j'ai vu les photos du corps. C'est un homme qui a été passé à tabac et qui a été noyé. C'est parfaitement clair. Ensuite, il y a eu le maire de Grosseto-Prugne, Monsieur Grossetti, qui a été assassiné parce qu'il mettait les bâtons dans les roues de certains promoteurs immobiliers dans le coin. Ensuite, il y a eu Monsieur Perrin, qui était le maire adjoint de la Seine-sur-Mer, qui a été assassiné dans les mêmes conditions exactement que Yann Pien, par des motards.
Des Pyrénées-Atlantiques.
Alors tout ça, ce sont des gens de l'UDF qui ont été assassinés pour des motifs immobiliers.
Et puis alors, M. Boulin était RPR.
Oui, RPR, mais il avait quitté le RPR et il était, je dirais, en grande sympathie avec l'UDF
avec Valéry Giscard d'Estaing. On s'attendait à ce qu'il fasse au profit.
On pensait qu'il allait passer.
Voilà. Au profit de M. Giscard d'Estaing, ce que M. Chirac avait fait en d'autres circonstances.
Voilà. Et puis, ce que j'appellerais un peu brutalement la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette histoire extraordinaire. Parce que même en Italie, on n'a jamais vu ça, d'un candidat à la candidature rival d'un autre candidat à la candidature qui deux fois de suite fait exploser sa voiture, lui arrachant les jambes et manquant le tuer. C'est l'histoire Madrenas dans les Pyrénées-Orientales. Et ça s'est pas passé dans un mouvement d'extrême droite, dans un groupuscule fasciste. Ça s'est passé au sein de l'UDF, le parti
ça
BCBG.
Ça se passe toujours dans ce
c'est
parti.
C'est là que ces gens-là s'entretuent.
Dans cette affaire Madrenas, on retrouve aussi des collaborateurs de Monsieur Lucotte, le sénateur, président du Conseil général de la Côte d'Or, n'est-ce pas, pas de la Côte d'Or, c'est de la Saône-et-Loire, je crois. Et voyez, tout ceci se tient, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, mais grâce à ça, on n'en saura sans doute pas plus. On punira ce que j'appellerais les lampistes, que personnellement, moi, je décollerais, n'est-ce pas, car je suis un partisan de la peine de mort, d'abord pour les tueurs professionnels. Ça serait quand même singulier, c'est même singulier que dans notre pays, il y a un certain nombre de professionnels respectables qui risquent leur vie en exerçant leur métier. Le seul métier où on ne risque pas sa vie, c'est le métier de tueur. Bon, alors, je considère que cette anomalie devrait être rectifiée et que le code pénal devrait être réformé, non pas dans le sens du laxisme comme il l'est maintenant, mais dans un sens plus rigoureux. Encore faut-il pour cela que les élites politiques prêchent d'exemple. Il n'y a de pédagogie que d'exemple, et il est bien évident qu'on ne peut pas faire reproche de la désagrégation morale du pays si on ne met pas en cause ceux qui le dirigent, car c'est eux qui donnent l'exemple de la corruption au plus haut niveau.
Alors, on reviendra, Jean-Marie Le Pen, à la tournée que vous faites depuis maintenant un mois et demi, au moins.
Oui, à peu près.
La tournée des...
Un peu plus d'un mois, en tout cas.
La tournée des cantonales, pré-cantonales. Ouais. Vous avez vu, je crois, 60...
Alors, je sais que j'avais l'objectif de voir 96 départements que je visite par tranche de 2 jours à la cadence de 4 départements situés dans 4 régions différentes. Tous les jours. J'en ai actuellement visité 64 et il m'en reste encore 32, dont les 8 de la région parisienne, de la ceinture parisienne, que je ferai en hélicoptère. Tenez, à titre d'exemple, si ça vous amuse, je partirai lundi prochain, le lendemain du premier tour de l'élection de Nice, où j'espère que ce qui vient de se produire dans la région va provoquer une mobilisation en faveur des gens propres, en faveur de ceux qui ne sont ni les complices, ni les amis politiques de ceux qui sont mouillés dans des affaires sales. Eh bien, je partirai de Paris, bien sûr, le bonheur le matin, Grenoble, Annecy, Besançon, Chalon, en Saône-et-Loire, et j'ai fait une petite exception là. Le lendemain, je serai à Autun, dans le même département, et puis j'irai à Chaumont, en Haute-Marne, puis Nancy, et je finirai par Strasbourg, parce que justement, j'ai cette semaine-là une session à Strasbourg, ça ne m'empêchera pas de repartir le vendredi pour Bordeaux, Angoulême, Limoges, peut-être Fontenay-le-Comte en Vendée, puis ensuite Amiens, Charleville-Mézières, Metz et Mulhouse. Voilà à peu près le rythme auquel je suis soumis. Et je dois dire que cette tournée, dont je vous donnerai peut-être les raisons, si vous le permettez, me permet de tirer un enseignement tout à fait remarquable.
C'est la question que j'allais vous poser, notamment à propos de l'état de délabrement, l'état même de déliquescence de la morale politique. Le rapprochement de ces deux mots m'a toujours paru une bizarrerie dans ce pays. Mais l'état des mœurs, quel effet a l'état des mœurs politiques sur la population, puisque
des observations consolantes, c'est de voir l'état d'extrême bonne santé du Front National, de ses cadres, de ses candidats. Je vous rappelle que nous allons présenter des candidats dans 95% des cantons, c'est-à-dire entre 1800 et 1900 candidats sur les 2000 cantons à renouveler. Et nous aurons, et je dois dire que j'ai trouvé là une ambiance de mobilisation générale et de gaieté. Mais je vous expliquerai, me semble-t-il, pourquoi, malgré le côté noir un peu de mon analyse, côté dramatique de l'analyse que je fais de l'avenir français dans les mois qui viennent, eh bien, les gens se sentent mobilisés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont les seuls qui peuvent aujourd'hui encore séparer, empêcher que le pays ne glisse aux abîmes. Et puis, il y a la vision de l'État. Dans quatre circonstances, j'ai pu constater que la police, sur ordre, avait le même comportement qu'elle a devant le gangstérisme, devant les violences dans les banlieues, devant toutes les circonstances où force devrait rester à la loi. Ça a été le cas dans deux départements du nord de la France où la police protégeait ceux qui étaient venus nous jeter des pierres et des boulons, n'est-ce pas ? Et leur permettait de faire leur manifestation violente à 10 mètres de l'endroit où nous étions réunis. Et puis, l'affaire de Corse.
La Corse, oui.
Ça c'est quand même beaucoup plus important, parce qu'aussi bien à Bastia qu'à Ajaccio, les forces de l'ordre étaient dans une supériorité numérique et d'armement écrasante. Bon. Eh bien, ils n'ont jamais reçu l'ordre de faire respecter la liberté de réunion ni la liberté de circulation. À Bastia, ils avaient bloqué la sortie de l'autoroute et nous bombardaient à coups de boulons avec des frondes très puissantes, n'est-ce pas ? Eh bien, la police avait reçu l'ordre de ses chefs. Il ne s'agit pas de mettre en cause les forces de l'ordre elles-mêmes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les CRS ou les gendarmes mobiles, qui, eux, seraient certainement heureux de remplir leur mission, parce qu'on ne peut pas vivre sans remplir sa mission. C'est une question de dignité, d'honneur à l'égard de soi-même. Le commissaire de police, qui était le même d'ailleurs, a laissé par exemple à Ajaccio les émeutiers enfoncer les portes de l'aéroport avec des 4x4, c'est pas, parsemer le terrain du combat avec des sacs de plastique pleins de galets de 200 à 300 grammes, vous voyez, hein, ce sont des véritables armes qui peuvent éventuellement tuer même, et envahir, grâce à la complicité d'un lieutenant de police corse, car autant les troupes venant de l'extérieur et du continent étaient tout à fait sûr. Autant l'acquaintance avec les policiers corses est évidente, avec les séparatistes. C'est un lieutenant de police qui a ouvert la porte, n'est-ce pas ? Ils sont entrés et ils ont envahi les locaux de l'aéroport, n'est-ce pas ? Et ils ont bloqué la réunion des militants du Front National, auxquels je devais m'adresser. Ils étaient une quinzaine dont les armes, pistolets automatiques ou revolvers, étaient apparentes sous leur pull-over. Et quand on a désigné au commissaire de police ces gens, en disant, vous voyez qu'ils sont armés, ils ont des armes, il a dit, vous voyez des armes, vous ? Moi, je ne vois pas d'armes. N'est-ce pas ? Ajoutant le cynisme et l'insolence à sa magouille, n'est-ce pas ? Mais c'est une magouille sur ordre, puisque moi, j'avais demandé à l'échelon le plus élevé qu'on fasse respecter la loi et l'ordre. Peut-être cet ordre a-t-il été donné à l'échelon le plus élevé, mais aux échelons subalternes du gouvernement, peut-être ne les a-t-on pas exécutés ou peut-être les a-t-on interprétés. En tous les cas, ils n'ont pas évacué, les forces de l'ordre ne m'ont pas permis, à l'intérieur des bâtiments de l'aéroport d'Ajaccio, de rencontrer les militants du Front National auxquels je venais m'adresser, ni les candidats. Je n'ai pu parler qu'à la presse. De toute évidence, il y avait eu un accord passé entre les séparatistes et la police pour que on fasse en quelque sorte comme les gangsters, un deal, quoi. On partage. Bon, ben Le Pen pourra voir les journalistes, mais nous interdisons qu'ils voient. Et pourquoi Le Pen? Parce que Le Pen ont-ils déclaré est un partisan de la peine de mort pour les terroristes. Hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ils se sont reconnus donc comme tels dans une île où, je rappelle, il y a eu 117 assassinats en quelques années, dont la plupart n'ont pas été élucidés. Tout se tient, ce qui se passe hier avec Yann Pia et ce qui se passe en Corse, c'est exactement la même chose. Ça témoigne de la décomposition de l'État républicain, de son impuissance calculée et peut-être même d'ailleurs préparée.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est que moi je trouve que c'est vraiment un signe de la déliquescence et du mensonge qui caractérise ce pouvoir, et celui qui l'a précédé, et celui qui était là avant, c'est que les mêmes qui ont la prétention de dire « la France va libérer l'aéroport de Sarajevo ou l'aéroport de Tuzla » sont incapables de faire respecter la libre circulation sur l'aéroport de Bastia ou d'Ajaccio. Alors, moi, je veux bien qu'on mette de l'ordre à Sarajevo, j'y vois aucun inconvénient, tant mieux, après tout, si ça épargne des vies humaines. Mais il faudrait peut-être d'abord faire respecter l'ordre à la Cité des Sapins à Rouen et empêcher qu'un gosse de 13 ans négocie avec les chefs de la police locale et oblige les chefs de la police locale à donner l'ordre à leurs troupes d'abandonner le terrain à la pègre, ça serait plus impressionnant que de faire régner l'ordre à Sarajevo. Alors, ça me paraît plus urgent.
C'est un des thèmes que j'expose au cours de mes tournées, en rappelant qu'il faut d'abord balayer chez soi avant de se faire professeur de balayage chez les autres. Mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel les gouvernants français ont souvent voulu être des professeurs plutôt que des exécutants. Et justement, je voudrais à cette occasion vous dire quel était l'essentiel du message qui a motivé mon engagement à un niveau aussi, je dirais, mobilisateur. C'est le sentiment que j'ai que la mise en œuvre progressive de la politique mondialiste et européiste, qui s'est traduite par la suppression des frontières, va acculer dans un temps relativement court toutes les entreprises françaises. Je dis bien toutes les entreprises françaises à la faillite. Car les pays, et en particulier, déjà nous avions du mal à résister à la concurrence des pays qui, comme les États-Unis et le Japon, ont 10 ou 12 points de moins que nous de prélèvements obligatoires, n'est-ce pas ? Donc ils ont des coûts salariaux et par conséquent des prix de vente inférieurs aux nôtres, et par conséquent, ils nous battent. sur notre terrain, mais maintenant s'ajoute à ces grands compétiteurs la concurrence de l'ensemble du monde, puisque nous avons, je le répète aux Français qui l'ignorent encore, supprimé nos frontières. Il n'y a plus de frontières de la France. Nous ne sommes plus protégés, et quand il faut savoir qu'un travailleur français coûte, le même s'il ne touche que le SMIC, 10 000 francs par mois minimum à son entreprise, un travailleur chinois, et ils sont des centaines de millions de travailleurs chinois, coûte 300 francs. Un travailleur vietnamien, 200 francs, et les millions et les centaines de millions d'enfants que l'on fait travailler pour une bouchée de pain et un coup de pied au derrière, ceux-là ne sont même pas payés. Ils n'ont pas de coût social, n'est-ce pas ? C'est une main-d'œuvre esclave. Bon, eh bien, ces produits, quand ils viennent en concurrence avec les nôtres, les battent en toutes circonstances. Ils savent faire aussi bien que nous, souvent mieux que nous, et toujours moins cher que nous. L'histoire du poisson et des pêcheurs le révèle bien. Depuis que les frontières sont ouverte totalement, eh bien, le poisson vient de Chine, d'Australie, du Chili, de l'Équateur, du Canada, et trois fois moins cher que le nôtre. Par conséquent, les gens qui avaient de la compassion pour les pêcheurs, et je les en remercie, devraient garder tout de même un peu de compassion pour eux-mêmes, même s'ils sont retraités, même s'ils sont fonctionnaires, car le jour est en train de venir, et à mon avis, inéluctablement, si on ne change pas de politique, si on ne substitue pas à la politique internationaliste une politique nationale telle que la promeut le Front National, eh bien, c'est la ruine totale avant le chaos et la guerre civile.
On a bien vu récemment dans une interview de Madelin où se situait justement l'affrontement, même pas des idées, mais des principes, l'affrontement fondamental quand il a été interrogé justement sur la pêche. Et on lui a offert l'occasion de faire un petit numéro de démagogie facile en défendant les pêcheurs. Il l'a pas fait du tout. Il était visiblement gêné qu'on lui parle de ça. Et il a expliqué en gros que si la pêche française était condamnée à mort, c'était parce que les Français, contrairement aux Japonais, aux Russes, n'avaient pas de bateaux-usines. Et alors on avait envie de lui dire, enfin j'attendais qu'un journaliste lui dise, mais encore est-il fallu d'abord qu'on leur permette de le faire, parce que on ne leur a jamais permis. C'est vrai que quand on pense à l'endettement des pêcheurs, qui est déjà phénoménal avec les petites unités qu'ils utilisent, on imagine que s'ils avaient voulu faire des bateaux-usines, c'était absolument impossible. Mais la deuxième chose, c'est que naturellement, les pêcheurs russes ou les pêcheurs japonais, les patrons pêcheurs n'ont jamais construit ou n'ont jamais acheté de bateaux-usines. Ce sont d'énormes machines industrielles. Donc il y a une espèce de confiscation des activités les plus traditionnelles de l'homme libre, comme la pêche, l'agriculture, confiscation par d'énormes groupes industriels qui les déshumanisent complètement, ces activités.
Oui, mais permettez-moi de vous dire autre chose. C'est qu'il y a une forme de guerre qui sera sans doute une des formes de la prochaine guerre. C'est la guerre alimentaire. C'est qu'il ne suffit pas de faire des bateaux-usines quand ces bateaux-usines vont devoir s'affronter physiquement avec les bateaux-usines japonais ou les bateaux-usines norvégiens ou d'autres bateaux-usines. La vérité, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la Terre. Le passage au milliard suivant se rapproche maintenant. Il ne faut plus que quelques années pour faire un milliard d'hommes supplémentaires. Eh bien, nous allons nous heurter à ce tragique problème qui est celui de la nourriture de notre peuple. Et nous sommes en train de nous désarmer totalement sur le plan de l'autosuffisance. L'import-export doit réjouir beaucoup de gens, mais il faut savoir que c'est fragile, car pour faire de l'import-export, il faut des liaisons internationales. Et qu'en cas de conflit, par exemple, ces liaisons internationales se trouvent interrompues. Et si nous n'avons pas su conserver chez nous, même à un prix un peu plus élevé, les moyens de nous fournir du blé, de la viande, du lait et du poisson, n'est-ce pas, pour parler succinctement, eh bien, nous mourrons. Voilà ce dont il est question, et si gouverner, c'est prévoir, il est bien évident que prévoir cette guerre alimentaire, c'est, devrait être à la portée du moindre conseiller général. Il semble que ça dépasse même la vue des ministres.
Alors Jean-Marie Le Pen, vous évoquiez tout à l'heure les différences de coûts du travail entre la Chine, le Vietnam, enfin entre les pays de...
L'Inde. L'Indonésie, la Thaïlande, la Birmanie, etc.
Et donc la différence entre les coûts du travail dans ces pays et les coûts du travail en France, quelle est votre opinion ou votre réaction devant l'affaire, ce qu'on pourrait appeler l'affaire du SMIC jeune, c'est-à-dire Édouard Balladur propose d'embaucher des jeunes à un salaire réduit par rapport au SMIC, à 80% du SMIC, et immédiatement mobilisation générale contre ce projet, au motif que ce projet serait de nature à provoquer encore plus de licenciements et une espèce de substitution des vieux payés cher par des jeunes sous-payés. Est-ce que ça vous paraît un débat sérieux?
Écoutez, je crois que le gouvernement ne mérite pas en tous les cas les critiques socialistes, parce que les socialistes ont mis en place plusieurs formes déguisées de demi-SMIC ou de quart de SMIC, les TUC et autres propositions socialistes ou mises en œuvre de réponses soi-disant au chômage ne leur permettent plus d'exercer ou de plutôt d'émettre quelque critique que ce soit à l'égard de quelque effort que ce soit. Mais nous, qui avons condamné les unes et les autres, nous pouvons dire pourquoi. Parce qu'il s'agit... Comme le gouvernement ne veut pas s'attaquer aux racines du mal, il ne veut pas mettre en cause les véritables raisons du chômage global, n'est-ce pas ? Car il ne sert à rien, en effet, de déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme c'est le cas dans cette affaire, nous y reviendrons, si vous voulez bien. Et il est évident qu'il faut s'attaquer au chômage en tant que phénomène, et en tant que phénomène largement, spécifiquement français. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que les principales causes du chômage, les deux grandes causes, c'est le libre-échangisme et l'abandon des frontières nationales et de la préférence nationale et l'immigration. Tant que l'on n'osera pas s'attaquer à ces deux causes principales, ça ne sert à rien d'essayer de vider le bateau qui s'emplit avec un dé à coudre. Or, la mesure préconisée par M. Giraud et par le gouvernement de M. Balladur est un cautère sur une jambe de bois. Elle a en effet l'inconvénient évident que si on propose, et quelle déception pour les jeunes, se voir proposer 3700 francs par mois quand on a le bac plus 2, mais il est vrai qu'il y a depuis cette année des polytechniciens sortis de l'école inscrits à l'ANPE, n'est-ce pas, c'est bien d'ailleurs les prodromes de la ruine économique, donc sociale, que j'annonçais tout à l'heure, eh bien, il ne faut pas s'étonner de cela. Eh bien, ils sont forcément déçus, mais il est évident que les entreprises qui embaucheront des jeunes à 3700 francs, si l'activité économique ne se développe pas, mais au contraire se réduit, seront amenées à licencier des personnes qui leur coûtent plus cher, c'est-à-dire qui sont au SMIC ou au-dessus du SMIC, surtout si elles ont atteint l'âge de la vieillesse sociale dans un pays comme le nôtre, à 50 ans.
Oui. Il y a un aspect que je trouve terrible dans cette affaire. Pas tellement dans la décision qui était prise, mais dans le bruit qui est fait autour. C'est que je pense aux parents qui ont des enfants qui sont au lycée, et les parents qui n'ont pour obsession que le fait que leurs enfants doivent travaille, passe ton bac d'abord, fais des études. Si tu fais pas d'études, j'entendais un ami très cher qui me disait l'autre jour, mais qu'un enfant qui n'a pas de diplôme, un jeune qui n'a pas de diplôme ne pourra jamais rien faire, il faut passer son bac, il faut faire des études, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans après le bac. Quand les gosses voient ça, quand ils voient qu'on leur propose de passer le bac, et puis de faire 2 ans d'études derrière, pour recevoir 3700 500 francs par mois s'ils ont la chance de trouver un employeur qui peut les embaucher. Mais comment voulez-vous que les parents trouvent un écho quand ils disent à leurs enfants de travailler? Les gosses se disent, mais pourquoi je vais m'emmerder? De toute façon, en sortant du lycée, je suis au chômage. Que j'ai le bac, un an ou deux, ou pas de bac, c'est exactement la même chose.
Serge, je vais vous faire une confidence. Je ne fréquente pas beaucoup les milieux du patronat. Mais je connais quand même un certain nombre de milliardaires en centimes. Ce sont tous des gens qui n'ont pas eu leur deuxième bac. Parce que je crois que on ne crée son entreprise justement que quand on l'a pas. Après, on devient un cadre d'entreprise, un très haut cadre d'entreprise, mais on ne crée plus d'entreprise. Pourquoi ? C'est parce que avec le bac plus 5 ou 6 ou 7, on veut avoir une rémunération d'un certain niveau. Or, ceci, on ne peut pas la trouver dans une entreprise qui se crée. Or, la France a besoin que se créent des entreprises. Je parlais l'autre jour avec un de nos compatriotes de La Réunion, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs président de la Chambre des métiers, qui est un créateur d'entreprise. C'est un petit garçon qui a été abandonné, qui a passé sa jeunesse dans la rue, n'est-ce pas. Et il a réussi d'une manière magnifique, à la fois dans les affaires et maintenant dans la politique. C'est vous dire qu'il est traité comme un mouton noir, n'est-ce pas, hein? Eh bien, j'en connais d'autres, le célèbre Monsieur Pinault, par exemple.
Oui.
Eh bien, Monsieur Pinault, Dieu merci pour lui, n'a eu que son premier bac, et il est parti de la petite entreprise de scierie de deux ouvriers de ses parents, et il est aujourd'hui un grand homme d'affaires.
Il faut préciser qu'il a eu le bac à l'époque, le premier bac à l'époque où il fallait savoir lire et écrire pour l'avoir.
Oui, bien sûr, évidemment.
Il y a une petite nuance.
C'est aussi quelque chose qui pèse dans le problème.
Puisque vous évoquez, enfin on évoquait cette question des jeunes, il y a un autre problème qui concerne très directement la jeunesse. C'est la véritable guerre qui est menée contre cette jeunesse française et pas seulement française. À travers l'arme mortelle, terrible de la drogue.
Oui, de la drogue. Alors, et du sida.
Et du sida qui est une sida de corollaire.
Tant que Monsieur Collard sera sanctifié et présenté comme le modèle de sa génération, n'est-ce pas? Monsieur Collard, qui était un homosexuel militant sidaïque et fier de l'être, si j'ose dire, qui n'a pas hésité d'ailleurs à se mettre en scène dans un film où il transmet d'ailleurs, enfin en tous les cas, il a des relations sexuelles avec une jeune fille sans lui dire qu'il est lui-même contaminé, n'est-ce pas, et qui est un chantre du sadomasochisme. Eh bien, tant que ceci sera proposé par les médias de masse, n'est-ce pas, y compris les plus bourgeois, n'est-ce pas, et les plus bourgeois d'ailleurs, car tous ces médias sont lus par des bourgeois essentiellement. C'est pas les agriculteurs ni les marins pêcheurs de Douarnenez qui lisent l'Express, le Point, l'événement du jeudi, ni Globe, n'est-ce pas. Eh bien, tant que ces personnages seront les modèles proposés à la jeunesse, il est bien évident que tout notre univers moral précédent est réputé désuet, ridicule, grotesque, comme l'est réputée d'ailleurs la vertu des jeunes filles, ou l'honnêteté, le courage, l'héroïsme des garçons. Voilà. Je me permets de vous rappeler que la première phrase de la proclamation de fondation du Front National était: la crise qui mine notre pays et menace notre peuple n'est pas essentiellement économique, financière ou sociale. Elle est d'abord et avant tout morale.
Mais justement, on a l'impression là que, enfin, il y a une espèce de croyance, ou je sais pas, de croyance, d'espérance qui se développe dans certains milieux. En tout cas, dans notre famille, on entend dire ça souvent. On entend dire, bon, il faut qu'on aille jusqu'au fond de l'abjection, de l'ignominie, de l'horreur, pour toucher le fond et pouvoir remonter. Mais quand on voit, je pensais à ça tout à l'heure en circulant dans Paris, et je voyais une affiche pour un film qui s'appelle Macho. C'est quelque chose, c'est indicible, cette affiche. Je la décris pas, les auditeurs la verront. Mais on se dit, il y a encore 3 ou 4 ans, on n'aurait jamais osé montrer une affiche comme ça de 4 mètres sur 3, c'est impossible. Mmh. Et là maintenant on a l'impression qu'il n'y a absolument plus rien qui les retient.
Oui, vous avez peur même du langage, voyez. Vous avez peur parce que ces mêmes pornocrates, n'est-ce pas, ces spécialistes du lesbianisme, etc., affichés. Moi, les mœurs des gens, après tout, ça les regarde. Ce qui est scandaleux, c'est justement l'effet d'annonce, la promotion qui est faite, la pédagogie qui est faite, de comportements qui sont marginaux, c'est le moins qu'on puisse dire. La bienveillance, la complaisance, quand on pense aux poursuites qui sont engagées par le parquet contre des journalistes libres et honnêtes, comme Caroline Parmentier, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres de la presse nationale, n'est-ce pas, et la complaisance, l'indulgence, l'impunité dont bénéficient tous ces corrupteurs et ces corrupteurs de la jeunesse, eh bien, c'est le signe d'une société qui va mourir. Mais alors, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle entraîne la France, ni le peuple français, dans leur mort. Voilà.
Ça atteint d'ailleurs des degrés de grotesque incroyable. Je pense à cette poursuite qui a été entamée contre Roland Gaucher, directeur du Crapouillot, pour atteinte aux bonnes mœurs, parce qu'il a publié un numéro sur les antiphysiques. Il est poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs. C'est-à-dire, il n'y a pas dans son journal le dixième de thé. C'est-à-dire le prix qu'on trouve dans n'importe quel autre quotidien ou hebdomadaire.
D'ailleurs, vous savez, quand j'avais désigné la sodomie comme la cause, le vecteur principal du sida en dehors de la voie veineuse, n'est-ce pas? Eh bien, tous les journaux de gauche se cachaient la tête en disant « c'est honteux, il parle sexuel, n'est-ce pas ?» etc., avec un grasseillement qui était censé exprimer l'esprit sévère et la moralité rigoureuse de ces personnes-là. Mais enfin, les spectacles qu'ils montrent, les promotions dont ils se décorent les uns les autres, ce spectacle-là, mais c'est très au-delà de la décadence romaine. C'est l'enfer de Dante. Il n'est pas possible que cela ne soit pas balayé par la nature. Ça le sera sûrement. Ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut éviter, c'est que ils n'entraînent ces gens-là avec eux le peuple français qui a survécu depuis des millénaires.
Oui, c'est le risque, c'est justement cette espèce de terrorisme qui s'est installé, de terrorisme de la morale publique, de terrorisme de l'ordre moral, enfin anti-ordre moral.
Non, c'est l'ordre, non, c'est l'ordre immoral.
C'est l'ordre immoral.
C'est l'ordre immoral. Si vous ne respectez pas les valeurs de l'ordre immoral, vous êtes un fasciste et un nazi.
Voilà, alors ils sont quand même, ils se heurtent quand même à des évidences. Je lisais ce matin, je crois que c'est dans un faux matin, je suis pas certain, une statistique qui établissait que, eh bien, qu'on le veuille ou non, 80% des sidaïques ou des sidéens, appelons ça comme on veut, portent cette maladie parce qu'ils ont eu des rapports contre nature ou parce qu'ils ont recouru à des toxiques, parce que ce sont des toxicomanes. Donc c'est 80%. Alors quand on nous répète à longueur de colonne, à longueur d'antenne, à longueur d'émission que pas du tout, ça concerne aussi les gens normaux, enfin on ne dit pas les gens normaux d'ailleurs, mais non, c'est pas vrai, c'est 4 fois plus.
Mais bien sûr, il y a des gens qui peuvent le contracter la maladie par contagion banale, dirais-je.
Bien sûr. Mais
ceci engage d'ailleurs la responsabilité de ceux qui le leur transmettent, n'est-ce pas ? Et ceci n'est pas souligné. C'est une société d'irresponsabilité. C'est une société de plus en plus corrompue du haut jusqu'en bas. Il faut avoir le courage de le dire et le courage de réagir. Il faut fustiger cela avant qu'on nous mette en prison, parce que ceux qui attaquent l'ordre immoral vont bientôt être mis en prison.
Oui, ben on a le cas, vous évoquiez Caroline Parmentier présent, qui est poursuivie pour avoir écrit des évidences. Enfin, et qui d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, Jean Madiran publie dans présent régulièrement.
Il y a quelque chose qu'il n'a pas publié, malheureusement, à la lecture de son article, je l'ai beaucoup regretté, c'est le nom et la photo du juge d'instruction qui a inculpé.
Oui. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant de le savoir, ne serait-ce que pour se prémunir contre...
Pour ne pas avoir à fréquenter ces gens-là et éventuellement leur serrer la main
par erreur. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on revienne à la... Pardonnez-moi de le dire sur ce ton, à la politique politicienne... Et à l'affaire de...
Je ne connais pas.
Vous l'observez quand même. Vous ne pratiquez pas.
C'est les milieux que je fréquente peu.
C'est les milieux qui ne sont pas fréquentables.
Oui.
Et d'ailleurs qui vous décrètent non fréquentables.
Ce qui
va bien au fond. Quand les gens qu'on n'a pas envie de rencontrer vous évitent, c'est une forme du bonheur quotidien.
Ah, mais vous savez, il y a beaucoup de circonstances où en croisant un certain nombre de personnages qui ont les insignes de la Légion d'honneur à la boutonnière, je me félicite de ne pas l'avoir.
À mon avis, il n'y a pas de danger avant un certain temps.
Mais c'est probable. Mais je me passerai de cela.
Alors, cette politique politicienne dont je voudrais vous faire parler, c'est cette affaire complètement ébouriffante. Du projet, alors je me demande même si j'ai bien compris, la loi proposée par Pasqua pour réglementer le système des primaires aux présidentielles. C'est bien ça qui a été évoqué. Il y a été question de faire une loi.
Il y a un certain nombre de lois en préparation. Il y en a une, je voudrais parler d'une autre avant. C'est la loi qui va essayer d'imposer pour le scrutin des régionales, n'est-ce pas, qui est jusqu'ici qui est régi par le système de la proportionnelle, lui imposer non seulement le majoritaire, mais le majoritaire municipal qui donne pratiquement tous les sièges à la liste qui est arrivée en tête. De toute évidence, cela procède de la volonté des élus de se soustraire au contrôle démocratique de l'opposition. Partout, il faut réduire les puissances de l'opposition. Ils veulent avoir les mains libres pour pouvoir avoir les mains sales.
Oui, il faut ajouter à ça que l'opposition est devenue, en dehors de l'opposition nationale, pratiquement inexistante, parce qu'on parle de la cohabitation, on parle du consensus, mais c'est surtout une société de connivence maintenant.
Complicité. Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. Et tu ne parleras pas de mon affaire Urba et on ne parlera pas de votre affaire de la défense.
C'est ça.
Bah voyons.
Alors, maintenant, cette loi sur les primaires, moi, je suis stupéfait, parce que je croyais que le premier tour, au fond, c'était à ça que ça servait.
Oui. Non, le problème, c'est toujours le même. C'est d'éliminer les concurrents possibles. Alors que le RPR et l'UDF s'organisent des primaires à leur congrès propre, c'est leur problème.
Oui.
Mais vouloir l'imposer à tout le pays par la loi, c'est quelque chose de tout bonnement scandaleux. C'est une des formes légales d'introduire la dictature.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le droit de se présenter... parce qu'ils sont agréés, mais par quel système
c'est une des innombrables, à moins que ce ne soit simplement qu'une opération poudre aux yeux, comme d'ailleurs celle où excelle Monsieur Pasqua, n'est-ce pas?
Le terroriseur de terroristes.
C'est ça. Eh bien, ou bien alors, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux, de beaucoup plus tordu, tendant à, comme toute l'évolution d'ailleurs de la législation électorale en témoigne depuis plusieurs décennies, tenter d'éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'exploitation industrielle du contribuable, n'est-ce pas?
Alors, on va continuer les questions. Alors, il y a quand même une question que à laquelle je ne résiste pas. Elle peut paraître dérisoire après tout ce qu'on a dit, mais c'est votre opinion sur le bilan des skieurs, patineurs français à Lillehammer.
Ben écoutez, comme on ne peut pas recruter des citoyens français dans le tiers-monde qui sachent skier, n'est-ce pas ? Le ski, c'est un petit peu tout de même un sport d'élite, un sport de pays qui évoluent, n'est-ce pas ? Eh bien, là, on ne peut pas recruter des champions avec de l'argent. ce qu'on fait pour le football, pour le basketball, pour beaucoup d'autres choses, le tennis ou autre. Alors donc, nous sommes là, bien représentés dans ce que nous sommes. Et quand nous nous comparons, quand nous nous mesurons, car c'est à ça que ça sert les jeux, cette compétition sert à établir une hiérarchie de valeurs dans laquelle on doit progresser par le travail, l'effort, le dépassement de soi. C'est en tous les cas ce que voulait faire Pierre de Coubertin. Alors certes, ce qui est beau, c'est de participer. Mais quand la participation classe un pays comme le nôtre, qui est un grand pays alpin et un grand pays de neige, n'est-ce pas, et de froid tout de même, et même de froid artificiel si on peut encore le fabriquer, bon, eh bien on sera bientôt battu par le Kenya ou par des pays comme ça, parce qu'ils auront établi des pistes artificielles. Eh bien, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un des signes supplémentaires, s'il en était besoin, de la décadence de notre pays. Parce que pour être de grands des champions, faut d'abord avoir un moral, faut d'abord avoir une volonté, un courage, une formation de l'esprit, du caractère, qui semble, chez nous, n'appartenir qu'à un petit nombre, en tous les cas être insuffisant. Voilà. Nous avons les skis qui sont les meilleurs du monde, mais il n'y a pas de skieurs pour mettre dessus. Et ça, c'est profondément navrant, car on pardonnerait à des gens qui sont battus parce qu'ils ont chuté, parce qu'ils ont eu un incident. Mais les Français sont trop habitués à rendre les autres responsables de ce qui leur arrive. La neige était trop froide, ou bien elle était trop humide, ou elle était trop sèche. Il y avait toujours une bonne raison pour que les autres arrivent devant nous. Eh bien, la première leçon qu'il faudra donner à nos champions, c'est que c'est en soi que se trouvent les vraies raisons de la défaite.
Ce qui m'a énormément frappé, c'est la veulerie extraordinaire de tous ces gens-là, dans leurs déclarations. Et vous disiez tout à l'heure qu'il faut avoir une morale, mais je crois qu'il faut avoir un moral, il faut aussi avoir une morale, oui, c'est évident, les deux. Et on voit à quel point cette jeunesse, parce que ce sont tous des jeunes gens ou des jeunes filles, cette jeunesse est totalement déconnecter des valeurs qui devraient faire l'esprit olympique, c'est-à-dire l'esprit de conquête, l'esprit de compétition, l'esprit de réussite, l'esprit de combat, l'esprit de sacrifice.
Pas seulement pour soi, mais aussi pour son pays. Or, dans la mesure où on a aux Jeux olympiques aussi tenté de dénationaliser les Jeux olympiques, n'est-ce pas ? Avant, on faisait les Jeux Olympiques, les origines helléniques des Jeux Olympiques et la pensée de Pierre de Coubertin, c'était que l'on combattait pour la fierté de sa nation, n'est-ce pas ? On était en quelque sorte un ambassadeur de sa nation. Alors, comme tout ceci est ruiné, comme ces sports sont devenus pratiquement des sports professionnels, eux aussi, que l'argent a fait irruption là-dedans.
De façon stupéfiante.
On devait gagner 25 millions anciens par médaille d'or, n'est-ce pas ? Alors il est évident qu'à partir de là, ça n'est plus qu'un spectacle sportif, et ce spectacle sportif devient mondialiste, puisque on ne peut plus se satisfaire de performances aussi médiocres, ni s'enthousiasmer pour son pays. Mais cependant, il n'y avait qu'à voir ce que le petit peuple norvégien a vécu comme enthousiasme, a vibré, a soutenu ses champions, les a portés par un élan qui dépasse celui de la communication verbale, n'est-ce pas ? Eh bien, on mesure notre décadence dans tous les domaines, ou presque.
Et là, on le voit à travers deux choses, entre autres, à travers ces Jeux Olympiques. Moi, je suis pas un fanatique de sport, mais là, j'ai quand même lu quelques articles sur ces affaires et j'ai découvert des choses ahurissantes. J'ai appris il y a deux jours que Madame Carole Merle n'avait pas l'intention, en dépit de ses résultats catastrophiques, d'abandonner l'équipe de France de ski. Parce que, dit le journaliste qui a écrit ça, on n'abandonne pas comme ça 6 millions de revenus par an. Donc, et quant à monsieur, je ne sais plus quel est le nom de ce champion, Picard ou je ne sais quoi, c'est 7 millions de francs.
Alors évidemment, quand on nous parle de l'esprit olympique, de l'esprit d'amateurisme éclairé de l'olympisme, et qu'on apprend que ces champions sont payés 6 à 7 millions de francs par an, ou sont payés, ou coûtent en tout cas, ont un budget personnel de cette somme, on se dit qu'évidemment, ils ne peuvent pas avoir le même esprit de sacrifice et de victoire qu'on pourrait attendre. Et on s'étonne
sacrifice,
plus.
Dévouement, émulation, ouais. Exaltation, tout cela.
Et on s'étonne plus de les entendre dire, comme l'a dit un garçon qui a abandonné parce qu'il faisait trop froid, il faisait froid, ce qui est vraiment un scandale, c'est vrai, en plein hiver en Norvège, ouais. Le fait qu'il fasse froid, c'est quelque chose d'absolument insupportable.
Le jour où on va faire les sports d'hiver à Nice, encore qu'il y a de la neige, pas loin de Nice, n'est-ce pas, à Isola 2000 et à Oron, il y a de la neige. Mais il faudrait faire ça, évidemment, avec le soleil. Ça serait merveilleux.
Vous évoquiez à l'instant le comportement tout à fait frappant, ça, pour ceux qui ont regardé les compétitions, des Norvégiens. Et on a retrouvé le même genre de comportement, je dirais, en ce qui concerne le projet d'élargissement de l'Europe. On a l'impression que les Norvégiens ne sont pas extrêmement pressés.
Non,
de rentrer dans le système.
Non, malgré les bakchiches énormes qui ont été offerts par Monsieur Delors au nom de l'Europe, n'est-ce pas, on a payé. Il faut savoir que ce sont les contribuables européens et d'abord français qui paieront l'entrée de ces pays dans le marché commun, parce qu'on a dû leur concéder beaucoup de complaisance pour pouvoir faire triompher la notion européiste d'élargissement. Et à ce propos, je voudrais rappeler aux Français qui nous écoutent, qui n'en sont pas pour la plupart conscients, que depuis le traité de Maastricht, depuis l'infâme traité de Maastricht, que nous avons été le seul parti, avec peut-être aussi le Parti communiste, mais pour d'autres raisons, le seul parti, le seul mouvement à condamner, n'est-ce pas, les individualités qui ont combattu Maastricht l'ont fait avec l'accord des partisans de Maastricht, l'accord de leurs dirigeants de parti. Ceci était fait pour empêcher que les voix ne viennent aux élections européennes vers le Front National, et de façon à pouvoir les ramener en temps utile dans le giron des partis dont ils sont membres. N'est-ce pas ? Il faut aussi le dire, ça. Eh bien, la loi française est désormais au-dessous des directives de Bruxelles. Il faut le savoir. Beaucoup de Français qui, je le dis, en sont stupéfaits. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Et quand c'est monsieur le négociateur de Blairhouse, n'est-ce pas,
Mickey Cantor, et puis l'autre dont le nom m'échappe.
Voilà. Léon Brittan. Quand monsieur Léon Brittan va remplacer, ce qui est probable, monsieur Delors,
Là au moins on saura qui sont les patrons.
Voilà, on saura. C'est clair. On saura qui est le patron. Mais je puis vous dire que les réveils seront terribles.
Parce que pour l'instant, avec Delors, on peut avoir un doute.
Oui, mais M. Delors a dû ménager la France, parce que M. Delors ménageait aussi la possibilité d'être candidat au présidentiel. Donc il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Mais ce qu'il n'a pas pu faire, c'est d'autres qui le feront. Et il est évident que même s'il y avait unanimité à l'Assemblée nationale pour voter une loi contraire à une directive de Bruxelles, eh bien, c'est la directive de Bruxelles qui l'emportera.
La France n'est plus
dirigée, il n'y a plus de nation française juridiquement parlant.
C'est même pas du fédéralisme.
La France est devenue une région d'un pays dont on ne connaît pas les limites, ni non plus les structures, ni les responsables du gouvernement. Voilà. C'est la marche c'est la marche vers le mondialisme, c'est la marche vers la destruction des nations, et cette destruction est en cours, n'est-ce pas ?
C'est la réalisation du vœu de M. de Rothschild qui avait dit « le verrou à faire sauter, c'est la nation ».
Absolument. Et ceci se fait avec la complicité des politiciens français qui sont déjà tous responsables de l'immigration, du chômage, de l'insécurité, du fiscalisme. Ce sont les partis de la bande des quatre qui sont au pouvoir depuis 30 ans, pour ne pas remonter au calende grec, depuis 30 ans, qui sont responsables. Il faut le savoir et le dire. Car tant que cette responsabilité n'aura pas été établie, et tant que le peuple français n'aura pas choisi de changer d'axe, d'abandonner l'axe internationaliste, droit de l'homique, antiraciste et autres fariboles idéologiques, et ne se ralliera pas à la forme politique et juridique qui a permis à la France de sa pérennité depuis un millénaire, c'est-à-dire le plan national, tant que nous ne serons pas revenus au plan national, au plan de la préférence nationale, nous serons entraînés vers les abîmes.
Alors, deux choses. Comment expliquez-vous que ces évidences, parce que enfin, moi, ça me paraît comme des évidences, ne s'imposent pas au peuple suédois, au peuple finlandais, au peuple autrichien qui semble vouloir entrer dans l'Europe. Qu'est-ce qu'elle a d'attirant, cette Europe, pour ces gens-là?
D'abord, on ne sait pas ce que pense le peuple pour l'instant. Pour l'instant, à ma connaissance, les peuples sont contre. Mais on ne désespère pas en leur faisant miroiter les conditions extrêmement avantageuses qui ont été concédées en notre nom par Bruxelles. On espère pouvoir les rallier suffisamment de temps pour qu'ils soient ligotés et ne s'aperçoivent plus de rien. Je vous rappelle, par exemple, que la propagande en faveur de l'Europe en Irlande s'étalait d'une façon particulièrement cynique. Voter non à l'Europe, c'est perdre X milliards de dollars. N'est-ce pas ? Voilà. C'est tout. On leur disait, voilà, vous perdrez l'argent que vous donne l'Europe, et ça c'est vrai au Portugal, c'est vrai en Grèce, c'est vrai dans le sud de l'Italie. Par exemple, la Finlande, je crois, a fait reconnaître, ou la Suède, a fait reconnaître 80% de son territoire comme territoire pauvre, c'est-à-dire qui devant être subventionné. Il faut savoir que la France paiera cette année à l'Europe 90 milliards de cotisations. Alors, quand on entend les exégètes se féliciter que l'Europe puisse aider la Corse, n'est-ce pas ? C'est dérisoire. La Corse a reçu 2 milliards, et probablement les Corses croient-ils qu'ils doivent cela à l'Europe, n'est-ce pas ? Et plus du tout à la France. Mais l'argent que leur donne l'Europe, c'est l'argent que la France a donné, amputé de ce que coûte, bien évidemment, la bureaucratie européenne.
Alors, vous, en tant que président du groupe des droites européennes à Bruxelles et à Strasbourg, vous êtes le témoin quotidien de cette folie.
Alors, depuis 10 ans, mon cher Serge.
On essaye toujours d'en parler, mais c'est un petit peu... C'est assez difficile, au fond, de faire passer aux auditeurs, aux lecteurs... le spectacle, de leur communiquer le spectacle de ce pandémonium délirant qu'est le Parlement européen.
Il n'y a pas de proposition la plus farfelue possible, surtout si elle est gauchiste d'origine, qui ne soit adoptée par la majorité. Tout ce qui est décadent, tout ce qui est laxiste, tout ce qui est à le cachet antifasciste, n'est-ce pas ? C'est-à-dire toutes les valeurs qui ont fait l'Europe, n'est-ce pas, au cours des siècles, tout cela est jeté par-dessus bord, car la plupart des représentants européens sont les hommes des lobbies financiers, commerciaux, des lobbies d'import-export mondialistes, et ces gens-là ne voient qu'à leur de leur nombril, n'est-ce pas ? Ils ne voient que les intérêts qu'ils sont chargés de défendre. Ils sont là les représentants de l'électricité, ils sont là les représentants des flux céréaliers, des flux pétroliers, des flux financiers, et qu'importent toutes ces vieilleries de l'Europe et de tout le reste, l'essentiel, c'est de faire de la monnaie, le seul dieu qu'ils reconnaissent et devant lequel ils se découvrent, c'est le veau d'or.
Et alors, tout ça est tartiné de morale, d'un discours moralisateur qui est vomitif, littéralement.
Bien évidemment. On fait la charité avec l'argent des autres, n'est-ce pas, et d'une façon ostensible, en se frappant la poitrine, Laurent serré ma air avec ma discipline, n'est-ce pas. Nous faisons ça pour le bonheur du monde. Chacun sait que tous les constructivistes qui ont voulu imposer le bonheur du monde ont construit des enfers, comme les communistes, les socialistes, les nationaux-socialistes et autres.
Alors, on peut peut-être donner la parole aux auditeurs. Il y a eu pas mal d'appels, je crois.
Oui, il y en a eu beaucoup. Pour lutter contre le pourrissement dont vous parlez et que nous constatons tous, demande une auditrice, est-ce vous, Monsieur Le Pen, qui serait président de la France en 1995 ?
Ça ne dépend
nous
pas.
Nous le souhaitons tellement.
Oui, c'est très gentil, mais ça ne dépend pas de moi. Et je ne sous-estime pas la charge terrible que cela représente si on ne se borne pas à jouer un rôle de potiche. Il est évident que le président de la République ne pourra pas, par sa seule présence, transformer le plomb en or. Il y faudra la volonté du peuple et il faudra que celle-ci se manifeste à tous les niveaux. Je crois d'ailleurs que le premier acte d'un président de la République digne de ce nom sera de faire un référendum sur la méthode du référendum, c'est-à-dire que le référendum et le référendum d'initiative populaire deviennent des instruments politique de premier plan, de façon à pouvoir faire les réformes sans se heurter en toutes circonstances à la coalition des intérêts ou des habitudes.
C'est la raison pour laquelle cette disposition qui est sans arrêt promise n'est jamais accordée, parce qu'ils savent très bien, les gens du pouvoir, que s'ils permettent le référendum populaire, ils vont évidemment créer les conditions de leur propre liquidation,
bien sûr. Ouais. Or, ils ne pensent qu'à leur réélection. Avez-vous vu dans l'histoire de la République un député impliqué dans les responsabilités écrasantes des décennies passées qui ait claqué la porte ? Quelqu'un qui a dit « je ne suis pas à la hauteur, je n'étais pas venu pour faire ça, je ne peux pas être le complice de cela », pas du tout.
Non, je cherche, mais je vois
non,
pas du tout.
Non. Chacun de ces gens-là entre en campagne.
Non, mais c'est pas en France. Je pensais au chef d'État portugais qui, au bout de deux jours, son nom m'échappe bien entendu pour l'instant, le fondateur du Portugal moderne, qui au bout de deux jours de parlement a dit j'ai tout compris, c'est une assemblée de canailles et de crapules, s'est en allé et a créé le régime qui a sorti le Portugal de la magouille maçonnique.
Ne prononcez pas de noms maudits, mon cher Serge. Vous allez encore encourir les foudres de la censure.
Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça, vous croyez ?
Oh, je crois qu'on a plus le droit de dire grand-chose. C'est pour ça qu'il faut beaucoup profiter des occasions démocratiques qui nous sont données dans les 18 mois. Nous allons connaître 5 ou 6 élections. Je crois 6, parce que je crois qu'il y aura une dissolution de l'Assemblée et je crois qu'il y aura un profond changement de la majorité parlementaire. Eh bien, nous avons là, en quelque sorte, une chance. En tous les cas, le peuple français a une chance de se faire entendre. S'il ne la saisit pas, il est probable qu'il n'en aura plus beaucoup d'autres.
Victor, il y a une autre question d'auditeur. Parce que je précise qu'il y a beaucoup de questions, mais il y en a énormément auxquelles on a répondu. Par exemple, il y a eu des questions.
Oui, là, enfin, plusieurs personnes m'ont demandé de vous préciser votre programme. Que voulez-vous? C'est un vaste programme, c'est vraiment mal de dire.
Là, pour cela, je ne puis me permettre de faire la publicité du livre qui s'appelle « Les 300 mesures pour la Renaissance française ».
Oui, c'est bien.
On trouve ça rue Clergerie. Ça pèse 1,3 kg ou 400. Et ça comporte toutes les réponses que l'on peut souhaiter quand on a envie de connaître le programme de Renaissance du Front National.
Mais sur les différents sujets traités, il y a eu des commentaires. On peut revenir
oui,
un peu.
Absolument.
Par exemple, sur les radios nationales, il a été en quelque sorte rendu hommage au front à propos de l'assassinat de Yann Pia. Les journalistes ont dit, ayant été au Front National, elle avait été élevée dans une certaine droiture.
Ah, ça, c'est très bien, ça. Alors, je remercie le journaliste qui a eu l'honnêteté de faire cette notation.
N'ajoutez pas à son malheur en le remerciant.
Oui, parce que j'ai peur.
Là, on n'a pas son nom, ça.
À mon avis, sa carrière ne va pas durer.
Michel Cotin, elle, à la télévision, a demandé si ce n'était pas l'extrême droite qui était coupable du meurtre de Madame Pia.
Ben oui,
alors, et nous avons
Madame
tremblé. Nous avons tremblé
Madame
pour un nouveau carpentage.
Madame Cotta est socialiste et elle sait ce dont elle parle.
C'est quand même dans l'émission de Madame Cotta que j'ai entendu le mot le plus extraordinaire depuis le début de l'année, je crois. C'est dimanche, samedi dernier ou dimanche dernier, je ne sais plus. L'émission était la table ronde, enfin la revue de presse était consacrée naturellement au massacre d'Hébron. Où un israélite intégriste fanatique a tué une soixantaine de Palestiniens au pistolet mitrailleur ou au fusil mitrailleur dans une mosquée. Et on a, Michel Cotta s'est tourné vers M. Pierre Bénichoux du Nouvel Observateur et lui a dit « Que pensez-vous de cette tragédie ?» Et il a répondu « C'est un crime contre les Juifs. »
Bien sûr.
Ce qui est, au fond, c'est tout à fait vrai. Il avait bien vu la chose. Mais c'est quand même un peu abrupt comme réflexion.
Oui, non, mais on souligne n'importe comment que cet assassin est un assassin d'extrême droite.
Oui.
Enfin,
oui.
De l'extrême droite israélienne, mais de l'extrême droite quand même. Hein, c'est bien évident.
Et d'ailleurs, en France, c'est tous les jours pratiquement qu'on mitraille 60 immigrés dans les mosquées qui parsèment le pays.
Non, je crois que pour me mettre à la hauteur de Mme Cotta, ce que j'ai beaucoup de mal à faire parce que j'ai les genoux et la colonne vertébrale un peu grippée, ce qui est vrai, c'est que Mme Pia a été pendant 20 ans pratiquement, en tous les cas 15 ans au Front National, et qu'évidemment elle y avait pris quelques bonnes habitudes qu'on n'attrape pas au Parti Socialiste, ni à Urba Conseil, ni Urba Gracco.
Alors Jean-Marie Le Pen, si vous permettez, je voudrais qu'on évoque maintenant
beaucoup de questions, enfin plusieurs questions sur l'Algérie et le rapport avec l'Algérie.
C'est ça, j'allais en venir à ça, aux questions de politique étrangère. Alors ça peut effectivement, la question algérienne peut nous servir de charnière parce que c'est de la politique étrangère qui est très très proche de la politique française. Bruno Gollnisch a provoqué l'habituel scandale fabriqué à Lyon en disant aux écologistes qui appelaient à prendre des mesures propres à préparer l'accueil de dizaines de milliers de réfugiés algériens en France, il leur a répondu « Oui, c'est ça, ils vont arriver, et vous, comme d'habitude, vous foutrez le camp à Londres ». Alors, toute l'assemblée locale a fait haut, a pris un air extrêmement choqué, car ça, c'est l'abomination de la désolation. On peut montrer les paires de fesses comme on veut à la télévision et sur les affiches, mais...
Vous avez contre les paires de fesses.
Ben, j'aime pas qu'on les monte dans la rue, si vous voulez. D'accord. Je préfère ça dans le privé.
Voilà.
Dans le privé, je trouve ça... ça regarde que les gens du privé. Voilà,
absolument.
C'est obligé d'afficher.
C'est un spectacle privé.
Voilà, c'est ça. Donc, ça a provoqué un énorme scandale. Alors, la première question que je voudrais vous poser à propos de cette affaire algérienne, comme je sais que vous avez pas mal de contacts, notamment dans l'armée, auprès de certains officiers. Et d'ailleurs, vous nous aviez raconté à cet égard une histoire qui s'est passée, qu'on vous a racontée à Briançon ou Besançon, j'ai un trou, c'est à Briançon. Vous racontiez que les immigrés qui occupaient le centre-ville... C'est à Belfort. Oui, à Belfort. les immigrés qui occupaient le centre-ville s'étaient déclarés choqués par le passage permanent.
Ah non, non, ils avaient fait plus que ça. Ils avaient interdit les passages de l'armée française dans leur quartier. Et les autorités militaires ont donné l'ordre désormais de contourner la ville et non plus de la traverser.
Voilà.
Il faut pas faire de, ça, de c'est provocation.
C'est un officier qui vous l'a raconté. Donc, j'imagine que l'armée a gardé quelques liens, en tout cas, certains officiers ont dû garder quelques liens, quelques moyens d'information. Alors, ma question est la suivante. Fort des informations dont vous disposez, est-ce que vous croyez que la crainte est réellement fondée d'une situation tellement dramatique en Algérie qu'elle provoque un afflux de réfugiés?
Ah, je crois que le peuple algérien vomit le FLN et ses formes dictatoriales pourtant approuvées par les démocraties occidentales et singulièrement par la France. Je crois que la bataille que le FLN mène contre le FIS va se traduire par sa défaite. D'ailleurs, si on en doutait, savoir que la France officielle soutient le FLN, c'est une garantie d'échec pour ceux qui seront soutenus. C'est déjà une preuve, ça. Et par conséquent, ils vont s'enfuir. Après avoir ruiné leur pays et l'avoir plongé dans la guerre civile, ils vont s'enfuir pour pouvoir profiter de l'argent qu'ils ont volé au peuple algérien et probablement un peu aussi aux subventions françaises pour vivre bien. Pas, ils ont pris une mentalité de nantis maintenant. Où sont les hommes du Djebel, n'est-ce pas? C'est bon. Eh bien, ils pourraient aller dans des pays arabes. Ils pourraient aussi, moi je leur suggère, de demander l'asile à des pays démocratiques et très droits de l'homique. Ceux qui nous inclinent, nous encouragent à les recevoir. Et malheureusement, je suis à peu près sûr que des centaines de milliers d'entre eux vont arriver ici. Alors, d'un autre côté, c'est peut-être cela le détonateur de la résistance. Je pense que le peuple français n'a pas oublié que des centaines de milliers de ses compatriotes ont été massacrés, en particulier dont les harkis d'une façon particulièrement féroce et sauvage, et que les pieds noirs et les Algériens démocrates, n'est-ce pas, et ne vont pas supporter l'arrivée de leurs bourreaux ici. Et si vous voulez bien vous souvenir que la simple affaire du foulard avait fait passer le potentiel de Madame Stirbois à Dreux de 17 à 43% au premier tour et 63% au deuxième tour, l'arrivée des Fellahs venus chez nous pour être entretenus par l'argent du peuple français, eh bien, peut provoquer la prise de conscience électorale qui peut, grâce au scrutin majoritaire, balayer l'Assemblée nationale. Et je rappelle que les conservateurs canadiens, partis joyeux à 168, sont revenus comme ça à 2. Et je me souviens de la grande victoire de 1951 du RPF, suivie 5 ans après de l'effectif de 400 000 voix dans l'ensemble du pays. N'est-ce pas ? Cela n'empêcha pas le général de Gaulle, avec l'aide des parachutistes. En tous les cas, la menace des parachutistes, ça avait suffi. Le régime était tellement vermoulu qu'il s'était écroulé sur la simple menace. D'ailleurs, il s'écroule chaque jour un peu plus sous la simple menace des uns ou des autres. Quand viendra la grande épreuve, il tombera comme une vieille table vernie, n'est-ce pas ? On n'y verra plus que un peu de poussière, ou comme quand la mule du pape botta Tistet Veden de Pampérigouste, on n'y vit plus qu'un peu de fumée surmontée par la plume de son chapeau.
On nous demande, 5000 Algériens arrivent-ils réellement en France par jour? Ce chiffre est-il exact?
Ah ben, je crois qu'il en arrive beaucoup, d'autant que vous savez qu'Air France fait des tarifs préférentiels. Vous savez que quand on est étranger, les billets coûtent beaucoup moins cher que quand on est français, bien sûr.
Mais le problème d'Air France, c'est qu'ils y vont à vide, parce que j'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens pour aller en Algérie.
Exactement.
Et en revanche, il y en a sans doute beaucoup.
C'est un voyage subventionné. Nous, d'ailleurs, les pompes aspirantes créées par les gouvernements de droite et de gauche fonctionnent à plein, et c'est bien M. Barrot, le chef du service des migrations, n'est-ce pas, qui nous a déclaré, outre le fait qu'il était entré 10 millions d'étrangers dans les 30 dernières années, que l'année dernière, en 93, il était entré 135 000 immigrés légaux, dont 44 000 ou 48 000 travailleurs, dans un pays qui a 7 millions de chômeurs, n'est-ce pas, il faut le rappeler tout de même. Et ça, c'est ce que M. Pasqua appelait le programme d'immigration de zéro, n'est-ce pas? C'est l'immigration de zéro, c'est 135 000, sans compter, bien sûr, les immigrés clandestins, puisque nous n'avons plus de frontières ni de contrôle frontalier, en tous les cas sur le nord, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur la Belgique et sur l'Allemagne, où nous avons mis par anticipation le système de Schengen en application, ce qui fait qu'on vous dit qu'on repousse la mise en œuvre du programme de Schengen, c'est totalement faux pour la moitié des frontières françaises. J'ajoute que j'ai eu l'occasion l'autre jour, dans un grand aéroport français international, de m'entendre dire par un responsable du service de la police de l'air et des frontières, il m'a dit la volonté de contrôler a totalement disparu. La preuve, c'est que notre effectif était dans cet aéroport de 18 fonctionnaires, il a été ramené à 12 la semaine dernière. Bon.
Si bien qu'un auditeur désabusé conclut, quand il y aura beaucoup de Maghrébins en France, le fils sera dominant et lui luttera contre l'ordre immoral puisque les Français n'ont plus le courage de le faire.
Oui, et puis alors nous irons à ce moment-là en Algérie où nous reconstruirons un pays prospère tandis que les immigrés et les fellahs ruineront celui-ci très rapidement. Mais il est déjà en bonne passe de l'être par les gouvernements de gauche et de droite qui s'y sont succédés dans l'impuissance et la corruption.
Alors, encore une question.
Un autre sujet. Que pensez-vous de la sanction prise il y a quelque temps contre le colonel Gaujac sur l'affaire Dreyfus?
Oui, le colonel Gaujac, on l'a appris, avait recopié cette partie de son texte dans le dictionnaire, dans le dictionnaire d'histoire Moore. Et c'est évidemment un pas de clerc de plus des censeurs qui ne savent pas d'abord de quoi ils parlent. Mais à partir du moment où ceci apparaît, si peu que ce soit, comme l'égratignure d'une vérité révélée, n'est-ce pas, et dans ce domaine-là, toutes les vérités sont révélées et intangibles, eh bien la sanction tombe immédiatement, même si elle doit ridiculiser, c'est vrai, quelqu'un qui ne peut plus l'être tant il l'a été plusieurs fois.
Je veux dire qu'on peut quand même se poser la question, même avec preuve de toute la charité possible, on peut se poser la question de savoir si M. Le Lothar est vraiment intelligent.
Il est mal conseillé,
je pense.
Il suit trop les conseils qu'on lui donne.
Alors, je voudrais terminer, Jean-Marie Le Pen, avec une question pratique. Vous avez entrepris de visiter, j'y reviens, tous les départements français
de métropole.
De métropole.
Ce sont mes lieutenants qui font ceux de l'outre-mer.
Pour, à l'occasion des cantonales. C'est quand même une tâche incroyable. Enfin, c'est un travail de titan, on peut le dire, c'est vrai.
Oui, ça me rajeunit.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au début parce que c'est tellement évident, vous avez l'air en pleine forme. D'habitude, je vous demande toujours comment ça va, mais je crois que ça va bien. Mais donc, c'est que vous accordez une importance considérable à ces élections qui, en général, sont traitées comme des élections subalternes sans importance et sans portée réelle.
Oui, honnêtement, ce n'est pas le terrain le plus facile pour le Front National, parce que ce sont des élections notabilières dans une atmosphère très imprégné de clientélisme. Il faut savoir que ces budgets de subventions que nous combattons dans toutes les assemblées où nous sommes représentés servent essentiellement à établir la relation privilégiée d'électeurs favorisés par l'argent public au bénéfice du conseiller général sortant. Alors là, le candidat principal est dans la plupart des cantons le sortant.
Le sortant, oui.
N'est-ce pas ? Bon, déjà conseiller général, il a quelquefois des adversaires qui sont des maires, dont, qui auront 70% des voix dans leur ville parce que, par patriotisme municipal. Alors, évidemment, nous avons une tâche difficile. Mais compte tenu du fait que ce scrutin, fût-il local, était le premier d'une série qui, selon moi, va être déterminante pour l'avenir de la France, puisqu'il va être suivi par les européennes, qui vont servir de tremplin, il faut bien le dire, aux présidentielles, et qu'entre les européennes et les présidentielles, il y aura probablement des législatives générales, où peut-être beaucoup de choses peuvent changer. Je sais en tout cas que d'ores et déjà, il y a au moins 200 candidats de la majorité, 200 députés sortants, qui sont d'ores et déjà battus maintenant, qui avaient été élus à quelques centaines, voire à quelques dizaines de voix, de façon presque inespérée, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que la majorité compte 485 députés UPF. Mais si ça a lieu l'année prochaine, alors bonjour les dégâts, n'est-ce pas ? Dans la baraque UPF, UDF, RPR. Alors, il y aura ensuite des municipales, n'est-ce pas ? 38 000 élections municipales à la fin de 95, ainsi que des sénatoriales. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, selon moi, la dernière chance de changer démocratiquement les choses dans notre pays. Je crois qu'après le niveau de ruine économique, de chômage et d'insécurité sera tel que nous ne pourrons plus mettre en œuvre les structures démocratiques parce qu'elles seront ruinées.
À bon entendeur, salut.
Alléluia.
Merci Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir passé une heure et demie avec nous. Et puis, laissons le dernier mot à Victorien, il reste 30 secondes.
C'était une auditrice qui dit merci à Serge Beketch. J'écouterai Jean-Marie Le Pen toute la nuit.
Oui, mais, je ne sais pas s'il ne serait pas capable de parler toute la nuit.
Oui. Ouais. Et mais chanter un peu aussi.
Je vais laisser un petit peu la parole aux autres. Je ne veux pas monopoliser votre antenne, que je sais être de qualité. Et il ne faut pas non plus trop lasser. Je prie les auditeurs de bien vouloir me pardonner de leur avoir montré ce soir une vision prophétique de notre pays qui est désastreuse. Cela dit, si je me bats, si nous nous battons au Front National, c'est parce que nous pensons pouvoir être comme ces jeunes aviateurs dont parlait Churchill, ces jeunes aviateurs anglais de 40 qui avaient dit « Jamais aussi peu d'hommes n'ont sauvé autant un aussi grand nombre, ou plutôt jamais un aussi grand nombre d'hommes n'a dû autant à un petit nombre. » Eh bien, entre la France et le désastre, je crois, qui reste le Front National, qui bien sûr n'a pas la prétention de seul permettre la renaissance de la France et le redressement de l'État, mais qui peut servir de colonne vertébrale et d'armature au peuple français quand il va vouloir, car c'est de cela qu'il s'agit, la France au vouloir.
Merci Jean-Marie Le Pen.
Dans le froid et la vague.
Merci Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 2 mars 1994. Rediffusé dimanche 30 décembre 2012 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Marc Dem, bonsoir.
Ben non, pas Marc Dem, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait Marc Dem? Il n'est pas avec nous?
Si, il est avec nous. Marc Dem, bonsoir.
Bonsoir Serge.
Avez-vous écouté Jean-Marie Le Pen?
Je l'ai écouté avec attention.
C'est bien.
C'est remarquable.
Ben oui.
Et c'est hélas bien vrai.
Est-ce que ça va mieux dans notre Sainte-Mère l'Église que dans notre autre Sainte-Mère la France?
Eh bien, le prochain numéro de Iota Unum va comprendre deux bonnes nouvelles.
Ah, bah écoutez, alors donnez-nous-les, comme ça on n'aura plus qu'à lire les mauvaises quand on le recevra.
Voilà.
À condition, bien sûr, de s'être abonné ou d'avoir demandé un spécimen en écrivant, en envoyant une carte de visite à la boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Alors, quelles sont ces bonnes nouvelles?
Alors, la première, c'est celle sur laquelle je titre, le phénomène lefébriste.
Oui.
L'expression n'est pas de moi. Je
oui, j'allais vous dire, ça m'étonne d'entendre une chose pareille
oui.
dans votre bouche
est...
respectueuse.
Elle est d'une personnalité assez considérable, puisque c'est le cardinal Ratzinger.
Oui, j'ai
Et entendu il... parler. Il confie à Il Regno, c'est un journal, donc une revue catholique italienne, pour faire bref. Il déclare ceci, le phénomène lefébriste est en extension, même si on n'en parle pas beaucoup. Il y a des monastères de cloîtrés, des congrégations religieuses, un institut universitaire à Paris, des séminaires partout dans le monde avec un grand nombre de candidats qui se préparent au sacerdoce, un nombre croissant de prêtres, d'oratoires, d'églises. C'est un phénomène d'une importance indéniable, ne serait-ce que par le grand nombre de prêtres qui y adhèrent, des jeunes souvent motivés par un grand idéalisme.
Oui, puis moi j'ai envie de dire, je sais que naturellement, là je vais faire plaisir à tout le monde, donc je vais y aller carrément, le phénomène lefébriste, je ne sais pas si dans la pensée du cardinal Ratzinger il se limite au développement de la fraternité, mais ce qui est clair, c'est que le phénomène lefébriste, comme il dit, il englobe largement le retour à la tradition, à la vraie tradition, y compris de la part de prêtres et de fidèles qui ne sont pas rattachés directement à la fraternité Saint-Pilis.
Oui, c'est possible qu'il ait cela dans l'esprit, mais de toute façon, il donne comme remède, enfin pas comme remède, mais comme solution, la solution habituelle. Il le dit que pour être ouverte à un saint pluralisme, qui a naturellement ses limites, voyez-vous, donc, déjà,
c'est ça,
mais admet des expressions diverses, l'Église doit, je crois, montrer compréhension et générosité afin de permettre à ses expériences de se sentir réellement chez elle.
Oui, mais ça fait 20 ans qu'ils nous disent ça.
Oui,
hein,
mais
au
oui.
Bas mot,
oui.
Hein.
Donc ça n'a pas changé. Ce qui est nouveau, c'est cette déclaration que la fraternité progresse alors
oui.
qu'on essaie, la fraternité et la tradition générale, alors qu'on essaie de montrer le contraire.
Ça serait beaucoup plus convaincant si les évêques obéissaient au pape. Alors on pourrait dire, si les évêques obéissent au pape, ils peuvent peut-être tenir compte de l'opinion du président de la congrégation de la foi. Mais étant donné qu'ils n'obéissent pas au pape, ils n'ont absolument rien à faire de ce que peut bien raconter Ratzinger.
Bien
et
sûr.
Quand Ratzinger, Monseigneur Ratzinger, dit il faut laisser au nom de la pluralité des rites, au nom du respect de la tradition, il faut laisser se perpétuer des rites millénaires parce que les fidèles le demandent et qu'ils y ont droit, ça c'est l'opinion de Monseigneur Ratzinger. Cela dit, en France, tout le monde sait qu'il y a une majorité d'évêques pour interdire la pratique du rite traditionnel. pas oui. seulement de refuser de l'autoriser, c'est pas tout à fait la même chose, pour l'interdire.
Pour l'interdire, oui, oui.
Et pour punir, fait. Et il y a même des, parce que, il y a même des fidèles qui se mobilisent, ça s'est passé à Logelbach récemment en Alsace, mmh. où une poignée de ce que j'appelle, moi, les cafards de sacristie, parce que c'est cette espèce de... christianité de gauche, gauchardine des CCFD et compagnie qui occupent littéralement les sacristies, qui sont les laïcs en église, comme ils disent, eh bien, ils se sont mobilisés pour interdire l'accès de la paroisse de Logelbach à un prêtre traditionnaliste qui avait oui. pourtant été nommé par l'évêque.
Pour une fois que l'évêque voulait
alors, mais, vous comprenez, étant donné que les évêques n'obéissent pas au pape, on ne voit oui. pas pourquoi les fidèles obéiraient aux évêques.
Oui.
On est dans le droit fil de la oui. désobéissance généralisée. Alors c'est intéressant de savoir que Mgr Ratzinger est dans ses dispositions d'esprit. Il n'est pas le seul d'ailleurs au Vatican, mais ça les fait à peu près, de, comme disait Jean-Marie Le Pen, un cautèr sur une jambe de bois.
Ah oui, ça j'en suis bien conscient.
Vous avez une deuxième bonne nouvelle.
Alors je vais vous dire la deuxième bonne nouvelle avant de dire la troisième qui l'est moins. La deuxième bonne nouvelle, c'est une déclaration, qu'a faite dans un livre, un professeur de l'Université de Floride du Sud. Alors, avant de vous dire qui c'est, je vous lis un passage. C'est le suivant. « Ce que je n'accepte pas, c'est que l'on trace une ligne de démarcation entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, ou bien que l'on distingue entre la foi de Jésus et celle de Paul. » Ou encore que l'on sépare Jésus-Christ de l'Église, son corps mystique. Certains chrétiens estiment carrément que le Jésus historique, l'homme qui est réellement vécu et enseigneur, n'aurait pas reconnu la foi que l'Église a formulée plus tard, etc. Tout le livre est de cette eau-là. Donc c'est un défenseur, un défenseur affiché de la tradition. On ne peut pas dire le contraire. Or, il s'agit de Jacob Neusner, qui est en effet professeur à l'Université de Floride du Sud, mais qui est également rabbin. Et son livre s'appelle « Un rabbin parle avec Jésus ».
C'est extraordinaire. Il existe en français, ce livre ?
Pardon ?
Il existe en français ?
Non. Ah. Il faudrait l'obtenir... je vais essayer de l'avoir déjà en américain.
C'est un sujet passionnant, bien
sûr. C'est un sujet passionnant.
Alors maintenant, la mauvaise nouvelle.
Oui, si l'on peut dire, vous connaissez bien sûr Schilbeck, un des grands destructeurs de l'Église, spécialement de l'Église hollandaise. Eh bien, il n'est pas d'accord avec le pape, et il le dit carrément.
Alors ça, c'est étonnant.
Oui, il dit que le pape souligne sans arrêt qu'il n'y a pas d'Europe sans Dieu. Moi, par contre, dit-il...
Déjà, il ne parle pas français, mais enfin, pour un Hollandais, c'est pas grave.
Oui. Je prétends qu'il peut exister un monde sans Dieu. On ne peut pas dire qu'une société sans Dieu ne possède pas une éthique et qu'elle doit être automatiquement injuste. L'athéisme n'entraîne pas le manque de toute éthique. Il est difficile aux chrétiens de faire comprendre la nécessité de la foi en Dieu. Dieu n'est pas nécessaire pour rendre une société juste, morale et équilibrée. La société humaniste étant possible.
Ben, je voudrais bien qu'il nous donne un exemple, parce que tout ce beau baratin... il faudrait simplement qu'il cite un exemple d'une société sans Dieu qui a été une société de paix, de justice, d'amour.
Je crois qu'il ne doit pas lire les journaux,
non,
ni regarder la télévision.
Alors, il fait penser à Balladur, qui l'autre, Monsieur Balladur, pardon, faut dire Monsieur Balladur, qui l'autre jour disait « Nous avons réglé le problème de l'insécurité et de l'immigration ». Alors, lui, en revanche, on sait qu'il lit les journaux, puisqu'il a appris le limogeage, la captation de Canal+, par la presse. Alors, donc, mais il doit pas lire les bonnes pages.
Oui, on doit lui faire
une revue de presse. On doit lui découper les mauvaises articles. Mon cher Marc, merci. Eh bien, nous avons pris note de l'avis de Schilbeck. Mais enfin, ça a quand même une importance assez minime, faut bien dire, non ?
Oui, ce qui est scandaleux, c'est que ça continue et que n'importe quel théologien peut s'exprimer publiquement, disant des atrocités,
à condition de ne pas être dans le droit fil de la tradition.
Oui.
C'est ça, parce que si vous dites bientôt on va se faire virer quand on dira que le Christ est le fils de la Vierge et le fils de Dieu, c'est là que ça deviendra quand même des propos dangereusement passéistes et intégristes.
Et passible d'excommunication.
Merci Marc. Alors à la semaine prochaine pour de nouveaux extraits de Iota Unum, lettre d'information religieuse confidentielle. dont on peut se procurer un spécimen, je le rappelle, en écrivant. Vous savez que je le dis deux fois dans chaque émission. Eh bien, il y a encore des auditeurs qui téléphonent le lendemain au journal pour dire, dites donc, c'est quoi l'adresse de Mardem?
C'est boîte postale numéro combien?
Boîte postale numéro 52, oui. 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Si vous ne mettez pas CEDEX, ça arrive quand même d'ailleurs.
Oui, oui.
Voilà, vous pouvez faire économiser de l'encre de stylo. Merci Marc.
Bonsoir Serge.
Bonsoir. Léon Arnoux, bonsoir. Vous êtes presque, vous allez bientôt avoir une chronique dans cette émission. Alors là, vous venez nous raconter rapidement une histoire qui est très amusante au fond. C'est l'affaire Berthomme Saint-André ou l'affaire Berthomme et Saint-André ou plutôt l'affaire comment s'appelle votre
du
votre
tableau mère, la,
les... comment s'appelle votre mère à Taverny?
Ah, c'est le grand Boscavert.
L'affaire Boscavert. Alors, quelle est cette affaire?
En deux mots, le maire a offert un tableau appartenant au patrimoine communal, un tableau qui avait été acquis il y a une trentaine d'années par un maire précédent, auprès du peintre Berthomme Saint-André, un tableau de valeur, puisque Berthomme Saint-André possède des œuvres dans une dizaine de musées en France, et autant à l'étranger, puisque on cite l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, la Hollande, etc.
Les experts situent le prix d'une œuvre de Berthomme Saint-André aux alentours de 50 000 francs, avec des pointes beaucoup plus importantes.
Oui,
puisque cette toile a été vendue 240 000 francs.
240 000 francs.
Donc c'est pas un peintre du dimanche, c'est un
non,
peintre.
Non, et d'autant plus que le maire pouvait difficilement ignorer ce peintre, puisque il a sa rue à Taverny, la rue Berthomme Saint-André. Donc, avant d'offrir cette œuvre, il aurait dû peut-être s'interroger sur ce qu'il faisait.
Si les yeux étaient des revolvers, j'aurais été tué de deux balles dans la tête à l'instant, là, parce que si vous aviez vu le regard de Marie-Josée de Brevois quand j'ai expliqué que c'était un bon peintre parce que ses tableaux valaient 240 000 francs, je crois qu'elle doit se dire, c'est pas possible.
On a perdu deux ans.
Il ne comprendra jamais rien, cet imbécile. Oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, la valeur de son œuvre, pas la valeur esthétique, mais la valeur commerciale de son œuvre, fait que, une municipalité qui offre un tableau de ce peintre, qui l'extrait du patrimoine municipal pour l'offrir à un individu, elle fait un cadeau
royal,
somptuaire. Voilà.
Oui. Hein? Mais le grave dans cette affaire, c'est que le maire se croyait autorisé. Le maire, qui est un maire socialiste, a une forte tendance à dénoncer les autocrates du passé, mais lui s'était cru autorisé, dans sa grandeur, dans sa générosité, à décrocher un tableau et à l'offrir. Et lorsqu'on lui a dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ceci, il a dit, mais si, j'ai parfaitement le droit, l'article 122.20 du code des communes m'autorise à faire une chose pareille, puisqu'il est rédigé ainsi, le maire peut décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à une valeur de 30 000 francs. Alors, on peut penser que le terme gré à gré implique négociation avant accord, de gré à gré, mais le mot aliénation, de notre côté, il a une signification imprécise, puisque aliénation, d'après le Larousse, signifie l'action de transférer la propriété d'une chose, d'une personne à une autre, soit à titre gratuit, soit sous forme onéreuse. C'est-à-dire qu'une aliénation peut être tout à la fois une vente ou un don, et le maire dit, ben moi je suis couvert puisque j'ai fait un don, mais j'y suis autorisé. Et l'ennui, c'est qu'il y avait d'autres obligations qui étaient liées à cela. La première, c'était qu'une expertise aurait dû être faite pour déterminer si l'œuvre ne dépassait pas 30 000 francs, chose qui n'avait pas été faite. Et la deuxième obligation, c'était que le maire avait malgré tout obligation d'informer le conseil municipal suivant de sa décision. Et il ne l'a pas fait.
Mais attendez Léon, vous nous dites là que la loi, le code municipal, le code des communes, autorise
le code des communes,
le maire d'une commune à soustraire du patrimoine communal
un objet, un bien quelconque, et en faire don à quelqu'un, et... à condition que ce don ne dépasse pas la valeur de 30 000 francs.
Voilà.
C'est ça. Mais combien de fois par an, ou par jour, ou par semaine?
Voilà une très bonne question. Eh bien, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. C'est-à-dire que, éventuellement, on pourrait avoir un maire qui décide de faire une aliénation cadeau, puisque
c'est quand même extraordinaire.
Tous les jours,
Ça veut dire que le maire de Trifouille-les-Oies fait acheter par la commune, par exemple, un très bel équipement vidéo. Et puis le lendemain, un équipement vidéo qui vaut 29 999 francs. Et puis le lendemain, il en fait aliénation pour l'offrir à son fils. Tiens, fiston, la municipalité a le plaisir de t'offrir une chaîne. Ah, mais il n'y a pas de lecteur de disque. Mais attends, demain, je m'en occupe. Le lendemain, le maire de Trifouille-les-Oies achète un lecteur de disque qui vaut 25 000 francs. Et il fait... Enfin, c'est une histoire de fou, vous nous racontez.
Mais oui, et certains m'ont dit, mais pourquoi limiter ça à une aliénation par jour, quand on y est?
Hein? Oui, c'est vrai, pourquoi une par jour?
Pourquoi une par jour? Il pourrait même y en avoir deux ou trois. Et il faut savoir que il n'y a qu'un conseil municipal obligatoire par trimestre. Donc, pendant 80 jours, si vous voulez, le maire pourrait donc...
Bah, le dimanche, il peut se reposer, quand
même.
Arrêter de faire des cadeaux.
Mais enfin, vous imaginez. Alors, moi, j'estime que la rédaction de cet article est trop imprécise pour que cela continue ainsi et qu'il faudrait qu'on remplace le terme « aliénation » tel qu'il est indiqué jusqu'ici par « aliénation à titre onéreux ». Sinon, nous aurons... probablement des bavures qui seront occasionnées par la mauvaise rédaction de cet article.
Ça, c'est une affaire. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire parce que ça met en lumière un des aspects du fonctionnement de ce pays qui est qu'on pourrait appeler les effets pervers de la légistomanie. On a dans ce pays la manie de légiférer. Alors on légifère sur tout sans arrêt. On dit voilà, on fait l'article 498B, paragraphe 12, etc. Et on arrive à des aberrations de ce genre. Alors qu'il suffirait de dire tout simplement, bon bah le patrimoine communal est inaliénable, point à la ligne, ce qui est l'évidence. On ne peut pas imaginer, sauf décision contraire de l'ensemble du conseil municipal, bon, etc. Mais on ne peut pas imaginer que le maire puisse souverainement décider d'offrir, bon, bah, une voiture. Alors, en plus, il pourrait très bien dire, bah, cette voiture, finalement, elle ne vaut plus rien, elle est fatiguée, je vais l'offrir. Enfin, c'est une histoire de fou.
Mais Serge, il y a mieux que ça, c'est que nous avons à Taverny une église du XIIIe siècle. Et dans cette église existent des statues du XVIe siècle, XVIIe siècle, qui ont une grande valeur. Alors, le maire qui apparemment ignorait Berthomé Saint-André, il n'en avait jamais entendu parler, bien que je répète, une rue de la ville s'appelle ainsi, eh bien, il pourrait décider d'offrir demain une statue en bois polychromé du XVIe siècle.
Ne lui donnez pas d'idée,
oui,
s'il
oui,
vous plaît.
Mais...
Oui, surtout que vous avez déjà donné le nom. Alors, si vous donnez l'adresse, là, ça va être dur.
Monsieur le Boscavert, il n'y a pas besoin qu'on lui donne des idées de ce genre. Il trouve ça tout seul. Regardez, il a fait... Il a offert à qui cette toile de Berthomé Saint-André?
À un cadre qui partait à la retraite.
Bah, c'est un tableau, c'est... à qui l'offrir sinon à un cadre, bien sûr.
J'ai pas fait exprès, là. Voilà.
Un cadre qui partait à la retraite.
Oui, qui partait à la retraite. Alors, moi, je dis que en France, dès qu'il s'agit maintenant du patrimoine, du bien commun, il faut être extrêmement vigilant. Après tout, en France, on a déjà connu des maires qui, après avoir ruiné leur commune, s'établissaient marchands de soupe en Amérique du Sud. On a connu ça. On a connu...
On parlait de Monsieur Boucheron, là.
Oui, on a connu des rois qui sont devenus fous. On a connu des présidents de la République tombés d'un train ou décédant dans des conditions un petit peu particulières.
Voilà, ne rentrez pas dans ce débat, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
Mais
tout de suite.
Vous
faites allusion à une affaire qui n'est pas établie historiquement.
Oui, mais cela nous oblige à être vigilants et comme nous appartenons à un mouvement qui n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale, il m'est difficile d'en contacter un et de lui dire « Je crois qu'il y a une loi mal rédigée, vois donc si tu peux faire quelque chose. » Alors je lance donc un appel sur les ondes pour que ce problème soit étudié par de véritables spécialistes.
On l'évoque d'une façon légère, mais c'est pas du tout un problème léger. Il y a 36 000 communes.
36 000 communes.
En France, si dans chaque commune, chaque jour, le maire se décide de faire un cadeau, à faire un cadeau de 30 000 balles à un de ses administrés, ça va quand même coûter très très cher à la nation, assez rapidement.
Oui, mais ce soir, vous prenez une sacrée responsabilité, parce que entre le moment où la loi va être rédigée différemment et aujourd'hui où vous l'avez annoncé à tous les maires de France, à mon avis, les tractations vont aller bon
voilà.
train.
Marie-Josée m'a piqué ma chute, parce que je voulais...
Pardon.
Je voulais tout simplement dire à Léo Arnoux que c'était peut-être pas la peine de... Parce que la plupart des maires de France ignorent absolument tout du code des communes. C'est... Comme d'ailleurs, la plupart des Français ignorent tout du code pénal, du code civil, et c'est tellement normal.
Et du sens d'aliénation. Vous avez...
et le sens...
Et du sens voilà. exact d'aliénation.
Aliénation.
Et voilà. Si, aliéné, je sais ce que ça veut dire. Parce qu'on m'a souvent dit que je l'étais moi-même. Donc je connais au moins un des sens de ce mot. Merci Léon. Si on veut vous joindre pour avoir des preuves, parce qu'on peut croire qu'on a raconté des bêtises, donc où est-ce qu'on peut vous joindre?
Je crois que la presse nationale et la presse locale se sont emparées de l'affaire, la préfecture aussi, le tableau est retourné sagement en mairie, et je peux être joint en mairie à Taverny, où je suis conseiller municipal.
À la mairie de Taverny, voilà. Merci Léon Arnoux.
Merci beaucoup Serge.
À bientôt pour la suite des aventures de la municipalité de Taverny. Oui. Je rappelle quand même que Léon a créé l'association de défense du blason de France à la suite
de Taverny, oui.
À la suite de
d'une décision de Boscavert une nouvelle fois
qui avait détruit le blason traditionnel qui évoquait l'histoire glorieuse de Taverny qui a été un haut lieu de l'histoire de France. Pour en faire, qu'est-ce que ça représentait, une espèce de...
Ah bien, il a remplacé le blason historique qui remontait à Bouvines par, vous savez maintenant, il y a des petits logos, toutes les communes ou presque s'amusent à faire ça. C'est toujours, on retrouve toujours deux couleurs, un vert acide et un bleu royal sur...
Royal. À l'origine, mais c'est quand...
Alors vous n'avez pas de chance, hein. Pardon, je vous ai coupé, mais parce que nous, à Bourg-en-Bresse, on a quand même retiré à l'inverse la croix de Savoie pour mettre à la place une croix de droguerie où on a quatre couleurs, vert, jaune, rouge, bleu.
Ah, hein? Vous avez de la chance, oui. Eh oui.
Mais ils doivent avoir des boîtes de couleurs en mais réserve dans les archives.
Dans le Val d'Oise, tous ces logos, que ce soit le logo du département ou autre, vous avez toujours le même vert, le même bleu sur fond blanc.
Oui, ils ont passé des accords.
On ne manque pas, véritablement d'imagination.
Et le logo, c'est une espèce de gamma, non? C'est pas celui-là.
C'est un arbre qui ressemble à... Les gens disent à Taverny qu'on dirait une laitue posée sur une boîte d'allumettes.
Voilà. Parce que j'ai une autre municipalité qui avait très intelligemment, ou une région, je sais plus exactement, qui avait remplacé son logo par l'insigne de la milice. Il s'en était pas aperçu, oui. Alors, ça avait quand même provoqué...
Pour l'Europe, c'est bien les étoiles de la Sainte Vierge, non?
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est parce que personne
n'en a rien. Ils s'en sont aperçus qu'après, aussi.
Oui. Merci, Léon.
Merci, Serge, de m'avoir invité.
Bernard Molinier, vous êtes écrivain, mais vous n'êtes pas écrivain de naissance.
Non.
Il faut bien vous approcher du micro, parce qu'il faut parler comme si vous alliez manger le micro. C'est le seul moyen... Voilà, c'est ça. Autrement, on vous entend comme si vous étiez à 12 kilomètres. Avant de devenir écrivain, vous avez fait naval.
Oui.
Vous avez été pilote de l'aéronaval.
Oui.
Et vous aimez à rappeler d'ailleurs que naval s'appelait au XVIIIe siècle la compagnie des gardes de la marine.
Exactement.
Ce qui est chic. Donc vous avez passé une dizaine d'années dans la Royale comme pilote de l'aéronaval. Et puis vous avez poursuivi cette carrière comme pilote sur UTA.
Oui, c'est ça. TAI d'abord, UTA ensuite.
Et depuis 85, vous êtes journaliste, vous apportez votre collaboration à l'Action française, à militant à présent.
C'est
et
ça.
Vous êtes un Français du Pacifique, on peut dire. D'adoption en tout cas.
Je me plais beaucoup dans le Pacifique. Et je vais en général en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, deux ou trois fois par an, et je m'y plais beaucoup.
Alors vous avez publié trois livres, on va en parler, on va parler plus spécialement d'un des trois ou de deux des trois, mais enfin on va parler des trois quand même. L'un c'est le plus récent, je crois, c'est Olysière du Capricorne.
Olysière du Capricorne, oui.
Qui est paru en octobre, et qui est un livre d'histoire.
Oui, c'est la relation d'une partie des voyages de James Cook en 1774, et d'Entrecasteaux, 19 ans plus tard, qui était parti à la recherche de La Pérouse.
Le deuxième livre dont on va parler, c'est La proie des vautours, dont le titre est plus qu'évocateur. Et parce que quand on parlait du Var tout à l'heure, on pourrait probablement en dire autant sur d'autres régions de France, même les régions les plus éloignées. Alors La proie des vautours, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis sa découverte en 1774.
Oui.
Jusqu'en
avril, en avril 93. Oui, j'ai parlé de ça parce que surtout il y a un an ou deux, il y a deux ans, lorsque l'URSS existait encore, la Nouvelle-Calédonie était vraiment la proie de plusieurs pays, dont le plus virulent était l'URSS. Les choses, heureusement, se sont un petit peu arrangées depuis que l'URSS n'existe plus. Mais enfin, il y a quand même encore beaucoup de pays qui, d'une façon ou d'une autre, essayent de prendre pied dans cette île.
Et le troisième livre, c'est un peu différent. C'est un livre de réflexion personnelle sur l'actualité et sur le traitement de l'actualité.
Oui.
Ça s'appelle « Changement de décor ».
Changement de décor, oui.
Et ça, vous prenez en compte, vous prenez en considération les bouleversements
c'est ça.
Du monde depuis quelques années.
Bien depuis la fausse révolution roumaine de 88. Je dis fausse révolution parce qu'elle n'a rien changé.
Tu m'y sauras, hein.
Eh bien, on peut dire que l'Europe, d'une part, et le monde ont été le théâtre de changements politiques en particulier extrêmement importants. Les frontières ont été déplacées. Toutes les nations ont changé de limite de politique générale.
Qu'est-ce qui fait qu'un officier qui a pris en charge une des professions les plus prestigieuses et en même temps les plus lourdes de responsabilités au monde, qui est la profession de pilote de ligne, moi, j'ai vraiment une admiration sans limite pour le courage de ces gens qui montent dans des objets qui pèsent je sais pas combien de tonnes et qui tiennent en l'air. Parce que
ne continuez pas, je vais rougir.
Il faut vraiment, non, mais il faut y croire, vous comprenez. Moi, oui. Pour me faire monter dans un avion, il faut au moins m'endormir avant. C'est la logique qui commande. Un objet métallique qui est en l'air, normalement, il a tendance à rejoindre la Terre par la ligne la plus brève, qui est la ligne droite, c'est-à-dire à la verticale. J'ai eu très peur en avion parce que jusqu'au jour où j'ai découvert que de toute façon il fallait mourir un jour. Et que ça servait à rien d'avoir peur de mourir puisque de toute façon ça arrive.
ça nous arrive.
Donc j'ai cessé d'avoir peur, mais je reste émerveillé par le fait que ça tient en l'air. Enfin apparemment, à moins que tout ça soit une gigantesque escroquerie et qu'en fait jamais aucun avion n'ait volé. C'est une hypothèse aussi que j'aime caresser.
On est toujours surpris de voir des tas de ferrailles comme ça qui arrivent à se promener au niveau des oiseaux.
Oui, ça c'est bizarre, c'est pas normal. Si vous voulez. Alors question donc, quelle est la logique qui vous conduit de cet univers-là à l'univers de la presse? Pourquoi devenez-vous journaliste un beau jour?
Eh bien, je dois dire qu'en 1985, j'ai fait une expérience politique. En ce sens que je me suis présenté au Conseil Général. J'ai obtenu un score assez convenable, mais je n'ai quand même pas été élu, ce qui m'a beaucoup déçu.
Et faut dire que vous n'aviez pas mis toutes les chances de votre côté.
Je n'ai peut-être pas choisi le parti qui avait toutes ses chances. À l'époque, j'entends.
Oui, en 85, c'était
c'est ça.
Voilà.
Et j'ai trouvé intéressant et agréable de pouvoir dire ce que je pensais, sans risquer d'être ni le ridicule, etc. Et c'est pour ça que quelques journaux m'ont proposé de leur colonne, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, ce qui m'a beaucoup flatté d'ailleurs. Et voilà, je fais actuellement un métier qui me plaît beaucoup, autant que les autres métiers que j'ai exercés auparavant.
Mais vous faites surtout un métier qui est double, parce que vous êtes, bon, journaliste, on l'a dit, Action française, militant, présent, et donc c'est pas la peine de chercher trop longtemps pour savoir sur quelle liste vous étiez présenté en 85. À mon avis, c'est pas sur les listes du Parti socialiste.
Non, ni les communistes.
Mais vous avez un autre métier qui est, vous êtes historien, votre livre, Lisière du Capricorne, c'est quand même un livre d'historien.
Eh bien, historien, c'est beaucoup dire, en sens que je me suis servi des journaux de campagne des officiers qui étaient embarqués avec Cook et avec d'Entrecasteaux.
Vous savez, il y a tellement d'historiens qui se disent, qui se prétendent tels, alors que le seul outil qu'ils ont au départ, c'est les livres écrits par ceux qui les ont précédés, oui. Que déjà le fait que vous ayez travaillé sur le produit brut, c'est-à-dire sur le journal de bord, oui. Ou le journal quotidien, c'est ça être historien, je crois, tout simplement, c'est aller chercher les documents, c'est ce que font inlassablement les Giraud de Coursac, ce que fait Jean-François Kia, ce que font les bons historiens. Donc finalement, vous êtes historien, que vous le vouliez ou non.
Oui, j'ai essayé de raconter des histoires vraies d'une façon assez plaisante et en les agrémentant de dessins que j'ai été prendre aux sources, en ce sens que j'ai reproduit dans mon petit livre les œuvres des artistes embarqués avec Cook et d'Entrecasteaux.
Oui, parce que à cette époque, ça c'est une, ça donne des documents extraordinaires. À cette époque, les expéditions partaient non pas avec des photographes ou des vidéastes,
non, avec des
mais
peintres,
avec des peintres, des aquarellistes.
C'est ça.
Et alors, où trouve-t-on maintenant ces merveilles?
Eh bien, il y a de ces gravures, de ces dessins que j'ai retrouvés en Australie. C'est assez curieux parce que les Australiens, qui ne sont pourtant pas en général de grands intellectuels, les Australiens, j'espère que je ne vexerai aucun...
Si, les Australiens, aucun... tous les Australiens qui nous écoutent sont fâchés, voilà, vous avez gagné.
Oui, non, mais enfin, les Australiens se sont intéressés à l'histoire de ces découvertes.
Et ils ont un musée, ils ont des archives.
À Sydney, oui, ils ont un musée, et puis on arrive à trouver dans des bibliothèques privées des documents qui sont très intéressants.
Alain Perfit avait publié il y a quelques années, je crois 4-5 ans peut-être, il avait donc fait sa série de livres sur la Chine, et il avait publié des aquarelles de voyage qui avaient été dessinées par la première expédition qui était partie pour rencontrer l'empereur de Chine. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. C'est une véritable splendeur. Donc on imagine que ce que vous avez découvert sur les voyages de Cook, les voyages d'Entrecasteaux, ça doit être aussi merveilleux.
Ah bien, je trouve que c'est merveilleux de penser que des gens, surtout lorsque je parle d'Entrecasteaux, des gens qui ne pouvaient pas se sentir entre eux, n'est-ce pas, qui se vouaient à la guillotine ou au fer, parce qu'on était en pleine révolution, n'est-ce pas, ont réussi, grâce à l'influence d'Entrecasteaux, d'arriver à une demi-réussite ou à un trois quarts de réussite. Je dis bien trois quarts parce que malgré tout, la Pérouse n'a pas été retrouvée.
Oui, alors justement, moi qui suis totalement ignare, comme me l'a gentiment écrit un auditeur.
Pas du tout.
Il a raison, cet homme-là. C'est les dates qui fonctionnent pas très bien dans ma tête. Et je m'aperçois que, en lisant la petite notice qui accompagne votre livre, que Louis XVI fit appareiller le 1er août 1785, sous le commandement de la Pérouse, deux frégates, la Boussole et l'Astrolabe.
Oui.
Pour compléter les observations de Bougainville et de Cook.
Exactement.
Et que, en 1791, en n'ayant pas de nouvelles de la Pérouse, qui était partie donc depuis 6 ans, on a envoyé la recherche et l'espérance avec Entrecasteaux et Kermadec à sa suite. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que 85, c'est avant la Révolution, ça je sais.
Oui.
91, c'est plein cœur de la Révolution, c'est une mauvaise période,
oui.
Je sais aussi. Et on sent là qu'il y a une continuité de la France, malgré tout, apparemment en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut penser que dans l'extraordinaire désordre révolutionnaire, personne ne va s'apercevoir que l'Astrolabe et la Boussole ne sont pas rentrés. Parce que la France ayant perdu la boussole, on ne doit pas s'étonner de ne pas la voir revenir. Et puis, si, il y a quand même quelqu'un, visiblement, qui dit, mais où est passée la Pérouse? Alors, il faudrait peut-être le guillotiner, mais où est-il?
et on l'envoie chercher par entre Castaux.
Oui, c'est une façon de voir les choses.
Non, c'est curieux quand même, oui. Cette permanence.
Eh bien, il y avait quand même une société de géographie à Paris, n'est-ce pas, qui commençait à trouver inquiétant de ne plus avoir de nouvelles de la Pérouse, dont le dernier message remontait à 1788. Et à partir de 90, fin 89-90, on commençait à trouver anormal de ne plus avoir de nouvelles. Et la Constituante, pour une fois, ça a été d'accord tout à fait avec Louis XVI pour envoyer une expédition. Une expédition qui est partie dans des conditions épouvantables, avec des bateaux qui étaient à bout de bord, n'est-ce pas, des équipements tout à fait insuffisants.
Ah oui, donc c'était quand même bien la période révolutionnaire.
C'est ça, exactement.
Sans que la gauche était au pouvoir.
Oui, c'était bien une forme de la gauche.
Vous avez découvert, c'est en conformité avec les historiens ou pas? Vous avez découvert des choses.
Oh, j'ai,
vous avez découvert des choses qui sont tout à fait conformes avec ce que d'autres personnes peuvent apprendre par l'histoire, ou bien alors vous avez des choses tout à fait différentes.
Non, on va dire je n'ai fait aucune vraie découverte. Je me suis servi de choses que tout le monde connaissait, mais en général que je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de livres de ce format-là, et donnant d'une façon assez lisible et agréable à lire, des faits qui finalement se retrouvent dans tous les documents, dans tous les manuels, etc. Je ne suis pas du tout orgueilleux dans ce domaine.
Ce qui est très fascinant dans cette démarche d'historien que vous faites et ce que vous faites apparaître, c'est on imagine, bon, c'est certainement pas les seuls qui sont partis à cette époque-là en expédition, et on imagine, si la Pérouse était revenue, était parti en 85, s'il avait mis 10 ans à se balader, par exemple, oui. S'il était revenu en 95, mais le choc qu'aurait représenté pour lui la découverte de ce qu'était devenu la France en 10 ans.
Ah bien, cette chose s'est passée un peu avec les équipages de l'Entrecasteaux. Lorsque finalement ils ont réussi à rejoindre l'île de Java, c'est là qu'ils ont appris des tas de choses dont ils n'avaient absolument aucune idée, comme par exemple la mort, l'assassinat exactement de Louis XVI et celui de son épouse, de Marie-Antoinette. Mmh. Ce qui a encore augmenté les dissensions entre les membres d'équipage. Enfin, ils étaient restés quand même trois ans sans aucune, deux ans et demi sans aucune nouvelle.
Et ça, vous en avez le témoignage direct et brut à travers les journaux de bord que vous lisez. Les officiers dont vous lisez les textes rapportent, nous venons d'apprendre.
Exactement. Exactement.
Alors, quels sont leurs commentaires?
Eh bien, il y a eu une rupture encore plus complète entre les partisans de la Révolution, les républicains, appelons-les ainsi, et les royalistes, qui n'étaient pas d'ailleurs forcément aristocrates.
Sur le bateau.
Sur les bateaux. Déjà, il y avait eu des heurts très, très importants, dus surtout à l'équipe de savants. Les savants qui étaient embarqués avec d'Entrecasteaux étaient certainement de grande valeur, mais ils ont eu une action catastrophique sur le moral des équipages. Ils ont attisé toutes les haines, n'est-ce pas, ce qui fait que s'il n'y avait pas eu d'Entrecasteaux pour contenir tous ces gens-là, ça aurait été une série continuelle de révoltes, d'assassinats, de meurtres.
Mais les savants, ils étaient pour la Révolution? Pardon.
Oui, en général. La Billardière, qui était un excellent savant, il faut le reconnaître, a fomenté des quantités de discorde et de manifestations d'indiscipline qui étaient certainement très nuisibles pour l'accomplissement de la mission.
Il faut dire qu'il ne pouvait pas savoir, lui, où il était à cette époque-là, que la République n'avait pas besoin de savants.
Voilà.
On lui avait pas dit. Voilà. C'est à son retour qu'il s'en est aperçu.
Voilà.
Alors ça, c'est donc Aux lisières du Capricorne. Je ne cacherai pas que je n'ai pas lu ce livre. J'ai lu la notice, mais alors maintenant je vais le lire parce que j'en découvre les, je découvre les, comment dirais-je,
Les côtés alléchants, ça doit être passionnant.
Bah, imaginez la Pérouse partant en 80 et revenant en 95.
Oui.
Ce serait extraordinaire.
Oui, voilà. Ah oui, je vais lire ça. Alors, si vous voulez le lire, je précise tout de suite, j'y reviendrai, mais qu'on peut se le procurer moyennant 90 francs.
Franco de port.
J'ose pas dire Franco parce que tout à l'heure on m'a empêché de dire Salazar.
Ah oui. Non, je vais vous garder encore un petit peu.
Pour une fois qu'il y a eu un bon dictateur.
90 francs Franco, excusez-moi, sauf le respect, en écrivant à monsieur Bernard Molinier, 256 boulevard des Ligures, quelle belle adresse.
Oui.
83 380 Lézissambre. Dites-moi, vous y êtes en plein, là, non?
Ah, je suis en plein dans les pays ligures, oui.
Si vous voyez passer des gens à moto, méfiez-vous, parce que c'est des temps qui courent. Alors, l'autre livre, justement, je plaisante à peine en disant ça, parce que quand on intitule un bouquin sur la Nouvelle-Calédonie, La proie des vautours, on prend quand même des risques, non?
J'ai eu quelques problèmes avec le ministre de l'Intérieur.
Ah oui?
C'est pas tellement avec ce livre-là, avec le premier que j'ai écrit.
Mais alors un auditeur qui, je sais pas qui c'est, à mon avis ça doit être un humoriste, il demande de rappeler que quand même James Cook a été dévoré dans les îles Sandwich.
Non, il a été assassiné aux îles Sandwich, mais je crois pas qu'il ait été dévoré lui.
Bon, alors donc c'était juste pour le plaisir de faire un mot.
Non mais puisqu'on en est aux appréciations, j'ai reçu récemment une lettre d'un de mes amis qui est sorcier dans une des îles qui est au nord de la Calédonie.
Un homme qui fait du boucan, non?
Oui, et qui m'a dit, monsieur, j'ai lu votre manuscrit, car je lui avais confié mon manuscrit. Il m'a dit, vous êtes vraiment assez méchant parce que vous vous moquez de nos ancêtres. Mais alors vous, lorsque d'Entrecasteaux était là en 1793, qu'est-ce que vous faisiez en France? La guillotine marchait, n'est-ce pas? Elle marchait même très fort. Oui. Et puis alors, quel manque d'économie, vous ne les mangiez même pas.
C'est vrai. Il a raison. Quoi qu'il y a des exemples avérés, des cas avérés de cannibalisme.
Ah bien.
Pendant la Révolution.
Oh.
Ah oui, tout à fait.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Il y a des cas de cannibalisme et de beuverie de sang de guillotiné. Ça existe, ça. Il faut lire un petit peu, Marie-Josée, vous verrez. Non, c'était bien, là.
Oui, mais je retiens pas les dates.
J'écrirai à mon ami sorcier en disant qu'il s'est trompé, qu'il y avait effectivement.
Voilà.
Effectivement, j'ai appris aujourd'hui.
Tout n'a pas été jeté.
Aujourd'hui, de 2 mars 94, que.
Je vous donne
pendant la Révolution, il y a eu des.
Je ne crois pas quand même que nous sommes inconséquents à ce point-là. Alors, cette Nouvelle-Calédonie, je suis toujours un petit peu surpris. Vous savez ce que disait le général de Gaulle à propos de la Nouvelle-Calédonie?
Oh, il a dit. Oui, enfin.
Je sais pas quelle heure il est, 8h15, est-ce que je peux employer le mot? Il disait, je vais encore me faire des amis, mais c'est De Gaulle qui disait ça, donc c'est faux. Il disait, la Nouvelle-Calédonie est une bande de terre habitée par une bande de cons.
Voilà.
Mais, donc c'est faux, naturellement, comme tout ce que disait De Gaulle.
C'est faux.
Mais, c'est d'autant plus faux, probablement, que tous les gens que je connais, à commencer par ADG, qui sont allés passer comme ça, pour voir Nouvelle-Calédonie, sont revenus totalement bouleversés et enamourés.
Ah oui, ça, je comprends ça.
Alors oui, mais expliquez-nous-le. Moi,
d'abord parce que tous ces gens qui étaient découverts en train de se manger les uns les autres sont devenus des gens tout à fait agréables et sympathiques et cultivés. Ensuite, la terre est très belle, l'île est très belle. Et puis enfin, c'est quand même merveilleux de penser que grâce aux Français, et uniquement aux Français, une terre sans aucune ressource est devenue une des terres les plus riches du monde.
Ceci... Alors, je comprends bien ça, mais vous qui avez étudié cette question du point de vue du journaliste, je dirais du point de vue de l'ingénieur, parce que un mataf devenu pilote de ligne, il y a quelque chose, il y a une disposition d'esprit qui conduit forcément à avoir un regard, je dirais, de technicien, de gestionnaire, on veut voir comment marche la mécanique, en fond,
oui,
c'est ça.
C'est ça, oui.
Donc vous avez posé le regard de l'amoureux, le regard du poète, de l'écrivain, du journaliste et du technicien. Comment expliquez-vous que cette terre, qui est pour la France une chance extraordinaire sur le plan économique, sur le plan de la présence dans le Pacifique qui va être le lieu où tout va se passer au troisième millénaire, s'il se passe quelque chose au troisième millénaire, ce qui n'est pas encore dit. Comment expliquez-vous que troisième millénaire,
oui, ça, troisième, hein,
que cette terre soit abandonnée, déconsidérée, lâchée par les politiciens d'aujourd'hui? C'est quand même pas à cause des vociférations autonomistes d'une poignée de...
Eh bien, parce que tous les mouvements indépendantistes ont été fomentés par les socialistes. Par les socialistes et par la suite, par les gouvernements qui ont alterné avec le socialisme et qui ne semblaient absolument pas comprendre l'intérêt que la France avait de garder cette île. Et qui au contraire fomentait des discordes, des...
Alors, l'avenir pour vous de cette Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous pensez que malgré l'agitation locale, malgré le désintérêt de la métropole, cette île peut rester une chance pour la France dans le Pacifique, ou est-ce que vous considérez, comme certains, que c'est foutu et qu'on ne la récupérera pas?
Non, je ne crois pas que ce soit foutu. Même avec les gouvernements de rencontre que nous avons, mais il est certain que si on avait un vrai gouvernement, de bons Français, là ce serait vraiment l'euphorie, et on devrait pouvoir tirer des ressources qui se reporteraient sur l'économie de la métropole elle-même. Mais en métropole, malheureusement, beaucoup de gens qui ayant même ayant des situations qui indiquent que leur intelligence est assez élevée, n'est-ce pas, ne s'intéressent finalement très peu à la Calédonie. Ils ne voient qu'une chose, ils ne voient que dans l'état actuel des choses et à cause des mauvais agissements des gouvernements, la Nouvelle-Calédonie coûte de l'argent à la métropole. Elle coûte de l'argent à la métropole parce que des grosses erreurs sont faites. Elle coûte de l'argent à la métropole parce qu'on entretient des forces de gendarmerie, de police beaucoup trop considérables, en même temps qu'on leur enlève tous les moyens d'action. Il est certain que l'ordre réunirait mieux encore, parce que l'ordre règne finalement d'une façon générale, régnerait mieux encore avec deux fois moins ou trois fois moins de forces de police, mais en leur donnant les possibilités d'accomplir leurs tâches.
C'est comme en métropole, quoi. C'est exactement la même chose.
C'est ça, c'est la même chose.
C'est la continuité.
Merci Bernard Molinier. Alors, je rappelle qu'on peut se procurer vos livres chez vous, ce qui est plus simple. 256 boulevard des Ligures, Ligures.
C'est ça.
83 380, alors c'est facile, ça fait 83, 3 et 80.
Oui.
Les Issambres.
C'est ça.
Et ces livres coûtent, pour Lisière du Capricorne, 90 francs. Pour
80.
La Proie des Vautours, 80 francs, et pour Changement des Corps, 70 francs. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance dans la lecture de vos œuvres, on dépense de moins en moins d'argent, mais on en tire un profit de plus en plus considérable.
Et
en
les achetant dans quelques librairies, quelques bonnes librairies, on les paye encore un peu moins cher parce qu'il n'y a pas le port.
Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vais me jeter sur les Lisières du Capricorne, ça c'est certain. Okay. Mais je recommande la lecture de ces trois livres à nos auditeurs, parce que étant donné votre origine, votre situation, on ne peut pas douter qu'on y trouvera grand plaisir. Alors, il y a quand même une critique, c'est un auditeur qui nous dit « J'ai lu La Proie des Vautours, mais j'aurais aimé plus de précision, page 59 ». Alors ça, c'est très précis. J'imagine que vous ne savez pas du tout ce qu'il y a à page 59.
Je n'ai pas apporté.
Il évoque l'affaire de la Légion d'honneur proposée à Madame Tchibaou par Jacques Lang, et que cette dame avait refusé en lui disant « Votre Légion d'honneur, vous pouvez vous la mettre, mais alors là, j'arrive pas à lire ce qui est écrit ».
Eh bien, vous pouvez vous la mettre au cul.
Ah, c'est ça, oui, d'accord. Oui, ben, c'est bien ce qui est écrit. Oui. Mais en revanche, pour autant que je sache, elle n'a pas dit la même chose quand il s'est agi de lui attribuer toutes les indemnités
et pension.
Ah oui, elle a une pension de veuve de guerre, ce qui est assez surprenant.
Oui, c'est ça, une femme de terroriste touche une pension de veuve de guerre après que son mari ait été abattu dans l'exercice de ses fonctions.
Ça a provoqué une certaine émotion auprès des épouses des gendarmes qui ont été assassinés à Ouvert.
Chibaou, c'est lequel? Parce que moi, entre Yewene et Yewene,
Chibaou, c'est un ancien ecclésiastique.
C'est l'ancien ecclésiastique.
Ecclésiastique qui a été maire de Yengen.
C'est ça. Alors lui, il n'était pas terroriste, il était simplement...
Il n'était pas terroriste. À Yengen, il a provoqué quand même des incendies, il a provoqué des...
Ah oui.
Il a annoncé que il fallait prendre tous les blancs et puis les jeter leurs cadavres derrière le récif. Enfin, c'était pas un temps.
C'est pas la peine d'aller en Nouvelle-Calédonie. Vous allez au sapin à Rouen, vous allez trouver la même chose. Sans problème. Merci Bernard Molinier. Je rappelle encore une fois votre adresse, 256 boulevard des Ligures, 83380 Les Issambres. À bientôt sans doute.
Merci beaucoup.
Cécilia, bonjour. Vous venez vous installer. Ben, prenez donc place. Je vais demander à Monsieur Molinier de libérer son fauteuil parce que nous sommes, comme toujours, trop nombreux. Jean-Pierre Abillard, je vous ai demandé de venir 2 minutes parce plusieurs semaines de suite, on a annoncé une bonne nouvelle. C'était l'ouverture d'un lieu de vente pour les produits eubiotiques que vous récoltez et que vous distribuez. Voilà. C'était 116 rue Legendre. Et puis, on a appris ces jours-ci que... Oui. Pour l'instant, c'était...
Pour l'instant, c'était simplement un dépôt et qu'on se servait de stockage pour le matériel du marché, quoi, parce qu'on justement, on a ouvert un marché rue Saint-Charles.
Parce que je crois que vous avez eu un problème avec la copropriété.
Oui, c'est ça, qui veut pas qu'on fasse de commerce à grande échelle dans ce locaux, quoi.
Voilà. Là, on est au cœur d'une... c'est la France, ça. 7 millions de chômeurs, mais vous avez des copropriétaires qui disent non, la boutique en bas, il faut pas faire de commerce dans la boutique.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est gênant, évidemment. On sait bien que dans le commerce, ce qui est le plus gênant, c'est les clients. Ben
je reçois mes amis quand même là-bas le jeudi après-midi, quoi. Mais
donc on peut aller quand même vous voir le jeudi après-midi, discrètement. Ne vous adressez pas à la concierge pour demander où c'est, parce qu'elle vous répondra pas.
Ah, oui.
Vous savez, il y a des gens comme ça, des concierges ou assimilés. Vous leur demandez un renseignement, ils disent je sais pas. Par exemple, vous demandez l'adresse du Libre Journal, on sait pas. Ou alors la concierge vous dit je sais pas où est le 116 rue. Non, il n'y a pas de magasin au 116 rue Legendre. Alors, c'est au fond de la cour, quand même.
C'est au fond de la cour, oui. Autrement, ceux qui veulent nous trouver au rue Saint-Charles, c'est tout près de la porte de Sèvres, au bout de la porte de Sèvres, et c'est au numéro 156, comme ça les gens se tromperont pas, quoi.
Comme ça, c'est sur le marché, vendredi.
C'est le vendredi matin.
Vendredi matin, marché Saint-Charles, devant le 156 de la rue Saint-Charles.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et puis vous trouverez certainement. Tu vois, on peut peut-être lancer un appel. Quelqu'un a une boutique libre dans laquelle on peut faire du commerce, quand même.
Oui, ça nous intéresse beaucoup sur
Paris.
Qui
s'adresse à Jean-Pierre Abillard ou à nous, qui nous téléphone au Libre Journal de la France courtoise, organe de presse qui n'a rien à voir, je le précise, avec Radio Courtoisie, sinon que je collabore aux deux.
Comme on dit, l'union fait la force et il faut essayer de se donner la main quand c'est possible.
Et l'oignon aussi, d'ailleurs, comme vous pouvez en témoigner, grâce à l'excellence des produits agricoles que vous proposez. Alors, donc, vous écrivez ou vous téléphonez 42 80 09 39 au Libre Journal et on vous donnera les adresses,
toutes les informations nécessaires
pour acheter les produits du paysan chrétien. D'abord, des gens qui s'appellent paysan chrétien, ils méritent de faire fortune.
Voilà. C'est pas qu'on veut faire fortune, mais c'est qu'on veut surtout aider nos prochains et leur apporter surtout la santé.
Ils ont quand même mis tout le paquet pour avoir des problèmes.
Oui, c'est ça. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Cécilia, pardon d'avoir été un peu long, mais nous passons des légumes aux fleurs.
Est-ce que nous avons notre petite...
Et nous allons entendre le jingle.
Voilà.
C'était l'espagnolade introductive.
Mais oui, l'espagnolade habituelle, comme vous dites.
Ça s'appelle comment, rappelez-moi?
C'est la cinquième danse de Granados.
Ah, c'est la cinquième. J'hésitais entre la quatrième.
C'est la septième danse pour les voiles.
Ah oui, ça n'a rien à voir, Marie-Josée.
Pardon.
Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, Eliane Boulong, et merci d'être là. Vous êtes vice-président de la section art floral de la Société nationale d'horticulture de France, que nous citons presque chaque mois. Grand maître Ikebana et présidente de la branche française de l'école Sogetsu. Voilà les deux derniers titres qui demandent certainement quelques explications pour nos auditeurs. Alors l'Ikebana, d'abord, qu'est-ce que c'est ?
L'Ikebana, c'est dans le japonais.
Ah, il faut que vous parliez bien bien dans le micro, bien, comme si vous alliez le manger.
Bien Ikelu, faire vivre, et de bana, fleur. Il est une discipline ancestrale. Il est issu de la religion shintoïste, religion primitive qui exaltait l'amour de la nature et surtout du bouddhisme. Il est venu de Chine dans les temples à peu près au VIe siècle. Il était offrande, méditation pratique en communion avec le monde cosmique. Par la suite, cet art qui n'était pratiqué qu'à des fins religieuses est devenu a été apprécié pour lui-même et devient un élément de la vie de cour, passant graduellement du temple à la maison d'habitation.
On n'est pas descendu dans la rue, mais il est quand même passé dans les habitations.
Oui, en passant par la cour.
C'est ça.
Oui, oui. Et dans la maison d'habitation, dans le tokonoma, qui était l'alcôve où l'on plaçait l'encens, le kakemono, qui était une jolie gravure. Il exprimait les sentiments de son auteur et rendait hommage à l'invité. Du 15 au 16e siècle, l'ikebana devient vraiment un art. Il évolue avec l'histoire du Japon et devient alors somptueux dans les temples et les palais au 18e siècle. Il se crée des expositions et un grand mécène la mise en valeur, ainsi que le théâtre No, la cérémonie du thé et tout, et l'art du jardin. Depuis 1920, et particulièrement depuis la dernière guerre, suivant l'évolution du pays, il est une importante expression philosophique et artistique. Il est devenu un art contemporain d'avant-garde. On le découvre dans les grandes expositions, dans les monuments publics, les grands magasins, les vitrines. Évidemment, il a perdu de sa spiritualité. Mais il sauvegarde ses compositions traditionnelles et poétiques. Tant que le Japon conservera ses traditions, d'ailleurs, il restera fort.
Et il s'est ouvert à l'Occident, finalement, essentiellement depuis la dernière guerre.
Oui, au cours des guerres, puisque on pénétrait dans le pays. Mais enfin, c'est la dernière guerre qui a créé la grande évolution du Japon et l'ouverture du pays à l'Occident.
Et alors, vous me citiez cette phrase de Oshawa.
Oui.
Qui souhaitait que ni occidental ni femme ne se préoccupe un jour d'Ikebana.
Oui, en 1935.
Le pauvre malheureux, il ne doit pas être très content aujourd'hui, puisque étant ici, vous êtes l'illustration même d'une femme occidentale pratiquant avec maîtrise l'Ikebana.
Oui.
Comment avez-vous découvert l'Ikebana? Êtes-vous devenu grand maître?
J'ai découvert l'Ikebana après avoir connu l'art occidental, qui me plaisait déjà beaucoup, mais je cherchais une spiritualité, et dès le premier bouquet japonais, j'ai été enthousiaste, et j'ai compris toute la profondeur de cet art, tout ce qu'il pouvait m'apporter, et je n'ai jamais cessé, depuis près de 30 ans, de pratiquer l'ikebana.
Et vous avez complètement abandonné l'art occidental.
Alors, je l'estime beaucoup.
De la plupart de nos amis.
Oui, je l'estime, je l'admire, mais je ne peux pas l'enseigner parce que ce ne sont pas les il y a des règles inverses Et puis je tiens beaucoup à la philosophie de l'art japonais.
Vous avez trouvé une concordance entre vous et cette philosophie.
Tout
cette
à fait,
démarche.
Tout à fait. Et c'est une l'ikebana est une thérapie. Et on disait que de travailler avec des fleurs rapprochait de Dieu il y a des siècles.
Je pense que c'est un petit
mais
peu
je le pense. Je dis souvent que je ne peux pas vivre sans des fleurs dans les mains.
Et comment peut-on pratiquer l'ikebana en France? Je crois que plusieurs écoles sont implantées. Pouvez-vous nous parler de chacune d'elles?
Eh bien, oui, plusieurs. Les plus importantes sont l'école Ikenobo, au Japon, les plus importantes sont l'école Ikenobo, l'école Ohara et l'école Sogetsu. Je les cite dans l'ordre où elles ont été créées au Japon. La très ancienne est l'école Ikenobo et la plus traditionnelle aussi. Quoique toutes les écoles aillent de plus en plus vers un art très moderne qui est demandé par la jeune génération.
Oui, et l'école Ohara, je crois, doit fêter son centenaire l'an prochain.
Donc, oui.
Nous inviterons Marcel Vrignot à cette occasion. Et vous-même, vous avez, je crois, 65 ans ou quelque chose comme ça.
Notre école a été fondée en 1926 par le maître Sofu Teshigara, et qui était un sculpteur, un grand sculpteur. Et il a apporté des méthodes nouvelles, il a créé avec des matériaux nouveaux, qui n'étaient pas que des fleurs et des végétaux. Il a vraiment créé son style et notre école est tout imprégnée de ce style de notre maître. Maintenant, c'est son fils Hiroshi Teshigara qui continue et qui est aussi un artiste connu dans le monde entier, qui a été potier, metteur en scène. Cinéaste, il a eu un grand prix à Cannes et un grand maître en ikebana.
Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut essayer de communiquer en peu de mots ce que c'est que l'ikebana et quelles sont les différences entre les trois écoles que vous évoquez?
L'ikebana, c'est s'exprimer avec des fleurs.
Donc ça, déjà, c'est d'ailleurs faire des bouquets, en somme.
Oui, mais faire des bouquets, c'est très simple. Mais là, il y a des règles très précises au début. Et je dis toujours à mes élèves, ces règles sont une discipline assez difficile. Mais elle est importante, ce sont les gammes du pianiste, et après vous pouvez plaquer les accords.
Quand vous dites des règles, ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de mettre certaines fleurs avec d'autres, on doit respecter
Nous avons des règles d'harmonie, d'équilibre, et par rapport à... il faut aussi penser au vide, qui met en valeur les masses et les lignes, il y a la longueur des branches, il y a la forme des branches, la position des branches, la position des fleurs, le sens des branches, tout compte.
Et la différence entre les écoles procède de quoi? Ça procède de rupture avec la règle initiale à chaque fois, alors j'imagine.
Ça dépend du maître. Chaque maître a donné une impulsion suivant son caractère. Nous, notre maître était un grand sculpteur, donc nous faisons des bouquets très modernes. Parce qu'il y a les bouquets les bouquets fondamentaux de base, donc avec des règles précises. Mais après, nous avons des compositions. Nous faisons des compositions libres et où nous respectons autant les fleurs, mais où la fleur la nature, l'objet, où devient objet, devient couleur. Donc là, c'est très différent, mais nous respectons toujours autant la nature. Mais l'école Ohara est plus... c'est une école de paysage et aussi de... Des paravents, des paravents du 18e siècle... j'ai oublié le nom là, je m'excuse, et particulièrement les paysages de l'école Ohara sont merveilleux, et là la nature est sauvage, on laisse des herbes séchées, on laisse les rhizomes d'iris, c'est la nature sauvage, tandis que nous lorsque nous faisons des paysages, c'est le jardin où le jardinier est passé, c'est très différent.
C'est
nous
mélangeons.
et nous mélangeons moins les éléments. Donc vous voyez là, et l'école Ikenobo, alors la plus ancienne et la plus sévère au point de vue règle, est extrêmement pure et belle quand les règles sont bien absorbées, observées. C'est vraiment extrêmement beau, mais c'est la plus orientale.
On reçoit un message d'un auditeur qui n'est pas très gentil, mais enfin, les bouquets japonais sont presque toujours déséquilibrés et laids. Vive le bouquet français. Alors, je suis d'accord pour le bouquet français, mais je ne vais pas contredire cela. Mais enfin, un vrai bouquet japonais n'est pas déséquilibré.
Mais cette personne n'a jamais vu de vrai bouquet japonais, sûrement.
Elle en a peut-être vu, mais je crois que c'est ce que je pensais en vous écoutant, madame, tout à l'heure. Vous devez, étant donné que vous êtes maître et que vous pratiquez cet art depuis de longues années, vous avez acquis une perception différente. La musique japonaise, par exemple, est certainement pour les Japonais quelque chose d'extraordinairement agréable à écouter. Moi, je dois tenir à peu près 2 minutes. Après, je commence à tout arracher et à tout casser dans la maison. Donc, et je peux pas dire que la musique japonaise est laide. Je dis tout simplement qu'elle correspond absolument pas à la sensibilité d'un occidental qui n'a rien connu d'autre que sa civilisation occidentale. Et par conséquent, je comprends très bien que quelqu'un dise, quand il voit un bouquet japonais, en fait, pour un primaire, pour un béotien, un bouquet japonais, ça ressemble souvent, nous on n'y voit que une grande économie de moyens.
Non, je pense que vous n'avez pas vu de beaux bouquets japonais, des bouquets japonais très réussis, parce qu'ils sont au contraire, le reflet d'une harmonie, doivent être extrêmement équilibrés, harmonieux. Ils sont en général faits avec la nature, et la nature est belle, on l'exalte avec le bouquet japonais.
Oui, mais on l'exalte.
Les fleurs sont superbes. Là, je viens d'en créer au musée Guimet, eh bien, 100 personnes étaient autour de moi, étonnées, ravies, oui. et surtout maintenant, avant, ils étaient très dépouillés auparavant, mais maintenant, il y a plus de fleurs, puisque il y a l'apport de l'Occident.
Mmh. Ah, quand même.
Il est beaucoup moins dépouillé qu'il y a 30 ans. Mais je crois que je plains cette personne parce qu'elle n'a pas encore eu la chance de voir
des bouquets japonais. Il faut dire que beaucoup de gens prétendent faire des bouquets japonais. Or, en fait, ils se contentent de faire des bouquets sur pique-fleurs.
C'est très dommage.
Ce ne sont pas du tout des bouquets japonais.
Parce que
j'avoue, Serge, que vous avez déjà reçu beaucoup de compliments d'une de vos grandes admiratrices de Deauville, qui va se reconnaître parce qu'elle doit vous écouter, et qui est maître en ikebana, et qui m'a dit tranquillement, étant sculpteur, « Moi aussi, madame, je fais de la sculpture avec des fleurs. »
Oui,
et elle m'en a apporté, et j'avoue que j'étais complètement bluffé. Ça veut dire que c'était d'un équilibre parfait,
mais
effectivement un superbe équilibre dans le déséquilibre, mais un très bel équilibre.
Les bouquets doivent parler. Il y a des bouquets qui sont techniquement bien réussis, mais qui sont froids, comme les personnes. Mais si l'on donne sa personnalité, le bouquet doit parler. Et moi, je connais le caractère de mes élèves par les bouquets qu'ils créent. Et le bouquet est une thérapie aussi, parce que il faut être calme, patient, il faut respecter les lignes. On travaille des fleurs et des branches dans les mains. Et lorsque mes élèves partent, en général, elles me disent « J'ai oublié tous mes soucis. » Et c'est phrase la plus gentille qu'elles peuvent me dire et qui me pèse de tout mon mal.
Justement, à propos d'élèves, on va parler un petit peu de vos activités. Donc, vous donnez des cours.
Oui.
Là où vous habitez, c'est-à-dire Vincennes.
Vincennes, 3 rue Charles Marinier.
Voilà, donnez les indications. Vous avez un numéro de téléphone.
43 28 83 07.
Je note ça parce qu'après,
pour vous inscrire, oui.
43 26 28
83 07.
Vous faites de nombreuses démonstrations,
oui,
tant en province qu'à l'étranger,
oui,
parce que vous êtes très demandé en Allemagne, je crois. Et vous...
Non, je suis allée en Allemagne, mais pas particulièrement en Allemagne.
Et vous réalisez tous les 2 ans une exposition à laquelle on va convier notre auditeur à la mairie du 4e arrondissement, et qui est une pure merveille. C'est un éblouissement et c'est vraiment une pause dans le temps, aller à cette exposition. Malheureusement, vous dites qu'en 94, il y aura des problèmes.
La date n'est pas encore décidée parce que c'est l'année des élections et dans une mairie, les salles sont bien occupées. et surtout à la mairie du 4e, qui est centrale.
Nous avons bien du mal. Royaliste.
C'est bien dommage. Moi, je rêve d'un vote, enfin d'un scrutin où on serait accueilli par des bouquets, ça serait merveilleux.
Non, il faut supprimer le vote. C'est pour ça qu'il faut être royaliste.
Au moins, on pourra,
dans les mairies, on pourra mettre des fleurs.
Mais
avec des fleurs de lys, il n'y aura pas de problème.
Alors maintenant, nous allons parler de votre futur proche. Le 22 mars, vous donnez deux démonstrations à la Société nationale d'horticulture.
C'est exact.
On va donner l'adresse, 84 rue de Grenelle, métro rue du Bac. Alors, ce sera donc le 22 mars à 11h et à 15h.
Oui.
Il faut réserver à l'avance, comme on dit maintenant dans les radios officielles. Vous avez vu qu'on dit ça de plus en plus. Donc, il faut réserver parce qu'il y a énormément de monde et la salle est assez petite. Et alors, votre thème et votre titre ?
Sur la voie des fleurs.
Voilà, c'est un thème extrêmement, au sens de chemin, c'est un thème extrêmement familier en Ikebana. Et alors, une autre grande aventure, pour vous tout au moins.
Oui.
Les Croisières Paquet organisent leur 6e croisière des Beaux-Arts au Japon. Et les organisateurs ont demandé à Eliane Boulong d'être l'animatrice des inévitables ateliers d'Ikebana qui auront lieu à bord avec conférences, démonstrations. C'est alors, je crois que cette croisière aura lieu au mois de juin.
Du 3 au 19 juin.
Du 3 au 19 juin, et on peut demander des renseignements.
Partant de Corée, revenant en Corée, et passant tout autour du Japon, et au milieu des villes les plus intéressantes.
Une réunion au musée Guimet
pour la présentation.
Avec des bouquets, justement.
Et alors, il y avait une conférence. Et on m'avait demandé des bouquets et les personnes étaient très contentes. Ils disaient, oh bien, je suis content, vraiment ravie de faire cette croisière puisque nous aurons la chance de pratiquer l'Ikebana.
Voilà. Et alors, il y aura au cours de cette croisière des visites de jardins. Je crois que vous aimez aussi les jardins japonais,
oui.
Puisque vous m'avez confié avoir essayé de donner une petite teinte japonisante à votre jardin personnel.
Oui, oui, oui.
Donc, j'ai là un très beau livre. C'est un petit peu paradoxal de le présenter, puisque les jardins japonais, comme chacun sait, sont très peu fleuris. Mais ils procèdent un petit peu de la même démarche. Ils sont pleins de symboles et il faut vraiment les interpréter. Il s'appelle Jardin du Japon, Jardin du Ciel, ce qui est tout un programme. C'est Maurice Fleurant, qui se trouve être secrétaire de la section Art des Jardins de notre bien-aimé SNHF, qui l'a réalisé avec de superbes photos à travers lesquelles il nous promène dans un autre univers. On peut dire que c'est vraiment un tout autre univers, après avoir indiqué les sources historiques, philosophiques, littéraires de tous ces jardins. Et alors, il s'appelle donc, je l'ai déjà dit, Jardin du Japon, Jardin du Ciel, de Maurice Fleurant, chez Edisud. Il coûte 260 francs. Voilà, merci Eliane, merci
Serge. Je voulais dire que pour regarder un bouquet japonais, il fallait de temps en temps fermer les yeux du corps et ouvrir ceux de l'âme.
C'est une très belle image.
On va essayer de regarder ces...
Oui, il va falloir vous exercer.
S'ouvrir à une autre...
Non, mais je ne dis pas que je n'aime pas ça, je dis que ça parle un langage que je n'entends pas.
Oui, mais ça...
C'est fermer les yeux du...
Fermer les yeux du corps, je vais essayer. Ça n'est pas facile. Eh bien, je raterai vos œuvres admirables, ma chère Marie-Josée, car vous êtes sculpteur, faute d'être grand maître d'Ikebana.
Eh oui, absolument.
Alors, mais c'est pas pour ça que vous êtes là ce soir, vous n'avez pas d'exposition en ce moment, donc c'est purement gratuit ce que vous faites, votre visite là.
Absolument, c'est totalement gratuit.
C'est juste pour nous donner
ça ne veut donner aucun nom, aucune date, rien.
Bon, c'est très bien. Alors, c'est juste pour nous donner des motifs de réjouissance.
Absolument.
Alors, je sais pas pourquoi vous me disiez que vous aviez trouvé un motif de réjouissance particulier dans le fait que un Guadeloupéen défend la France.
Ah oui.
Alors,
oui, parce que tout à l'heure,
ça a d'étonnant parce qu'il défend son pays en somme.
Et oui, mais ce qui est quand même assez fabuleux par rapport à ce que disait tout à l'heure votre invité, c'est que on a toutes les raisons d'être très très pessimiste par rapport à la défense du français et de la France, n'est-ce pas, et des Français. Mais l'autre jour, j'ai écouté Radio Montmartre et c'était la semaine de la chanson française.
Oui.
Or, Radio Montmartre, comme l'a fait dire la speakerine, Radio Montmartre était la seule radio qui a dit « semaine de la chanson française ». Parce que toutes les autres stations ont dit « semaine de la chanson », mais ont occulté le français.
Oui. Et il y avait Daniel de Saint-Jean, qui est le directeur, je crois, du Casino de Paris, qui a dit, écoutez, moi, je dois vous dire, chère madame, j'ai vu les affiches de la semaine de la chanson française. Quand j'ai vu, alors je cite Daniel de Saint-Jean, quand j'ai vu ce rouquin et ce nègre, j'ai pensé que c'était touche pas à mon pote. Oui. Alors, naturellement, que la speakerine a été un petit peu gênée. Elle lui a dit, mais vous savez, nous, dans notre radio, on ose dire chanson française. Dans les autres radios, on n'ose pas le dire. Mais chez nous, on le dit. Alors, Daniel de Saint-Jean a continué en disant, écoutez, nous, on a quelques problèmes, nous, les Guadeloupéens, parce qu'on est fiers d'être français. Et quand on revient de la Guadeloupe en France, on a l'impression que vous, vous avez honte. Alors, quand même, je trouve que c'est agréable. Ça, on c'est est, je pense que le relais est assuré. Ça va faire comme pour les publics de derrière le rideau de fer. Il n'y a que les communistes pour nous sauver du communisme. Parce que les autres, ils nous mettent dedans. Ça, c'est... Donc c'est bon.
Et puis alors, je crois que vous êtes très contente aussi des télécoms.
Ah oui, les télécoms.
Pour des raisons qui m'échappent totalement, parce que il y a quand même pas lieu de se réjouir trop.
Et si, parce que les télécoms, je me suis fait mettre une nouvelle ligne de téléphone, et c'est mal tombé, c'était un vendredi soir. Il m'avait promis, bien sûr, la mise en route pour le mercredi qui précédait le vendredi. Donc le vendredi, je me suis un petit peu inquiété, j'ai téléphoné, je suis tombé sur un numéro vert où il y avait un disque. J'ai téléphoné aux réclamations, et là je me suis fait proprement engueuler, il n'y a pas d'autre mot, en me disant, mais enfin madame, c'est fermé pendant le week-end. Ah oui. J'ai dit, mais moi j'ai un énorme problème dentaire, j'ai peut-être besoin d'appeler de toute urgence un toubib pendant la nuit, donc je n'ai pas le droit d'avoir un problème dentaire entre le vendredi et le lundi. Mmh. Et le team m'a dit, mais madame, il y a un service qui va être très 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 bien organisé, car nous avons décidé de procéder à une constitution d'une structure. Cette structure sera faite pour recevoir justement vos réclamations. Et vous savez, madame, vous avez le droit d'écrire, vous aurez toujours une réponse. Ça, c'est formidable.
Ah, madame, c'est sympa.
C'est chouette, hein. Alors, bien sûr, si dépenser l'argent de la structure des réclamations pour que ça marche bien, pour pas avoir besoin de structure, ça peut-être... Bon, on va pas refaire le monde, hein. Bon,
mauvaise idée.
On va pas refaire le monde.
Et puis alors, dernier motif de réjouissance, vous trouvez que M. Balladur est un bon propagateur de la vraie foi?
Absolument. Oh, vous n'en avez pas rendu compte,
Monsieur? J'ai vu qu'il allait à la messe avec une certaine ostentation, mais je ne sais pas comment on peut diriger le gouvernement d'un pays où l'avortement est libre et remboursé tout en allant à la messe le dimanche. C'est un mystère pour moi. Expliquez-moi ça.
Monsieur Balladur qui va à la messe le dimanche, d'abord nous a amené à trois bonnes raisons, encore trois, ça va faire six, pardon, ce soir, mais je vais être très courte pour les raconter. Il a trois raisons de nous faire faire correctement notre carême. D'abord, un, il a doublé le prix des communications sur la capitale. Ah, oui. Or, qui parle pendant des heures au téléphone sinon les gens seuls?
Oui.
Les pauvres, les abandonnés, ceux qui n'ont pas de parents proches, etc. etc. Donc, mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle pendant des heures? 9 fois sur 10, faut bien le reconnaître, plus de calomnie que de gentillesse. Donc, grâce à Monsieur Balladur, plus de calomnie, on n'a pas le temps. On a juste le temps de dire, est-ce que tu as été sous le lait, et c'est tout. Hein. Et puis, la deuxième raison de se réjouir, parce que Monsieur Balladur nous fait bien faire notre carême, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a mis l'impôt de l'impôt. La CSG des CSG sur la CSG, enfin je sais plus où on en est, mais
oui,
on
oui.
prend l'impôt sur l'impôt de l'impôt sur l'impôt, etc. Bon. Or, toutes les mauvaises langues jusqu'à présent, on a toujours dit, et je dois dire surtout à cette radio, qui quelquefois est très peu courtoise, on a dit la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, les socialistes, les socialistes, les socialistes. Bon, eh bien, problème d'examen de conscience pendant cette période de carême. Ceux qui se disent différents des socialistes sont tout aussi capables qu'eux de nous piquer des sous. Ouais, mais avec autant de mauvaise foi, d'accord?
C'est très rassurant.
Oui, Monsieur Balladur, il avait dit qu'il ne reconduirait pas la CSG, mais il l'a pas fait pour faire un mensonge, il l'a fait pour nous montrer comme c'est vilain de mentir. Et puis la dernière chose que Monsieur Balladur a voulu nous faire comprendre aussi, c'est qu'il nous a donné une leçon d'humilité, parce qu'on sait bien que tous les médias sont dans sa main. Or, si vous avez vu le podium qui devait recevoir les vainqueurs, excusez-moi, on pouvait mettre vraiment un troupeau de moutons en plus. Hein. Alors, ça, grande leçon d'humilité, ne voyons pas trop grand. Merci Monsieur Balladur qui va à la messe le dimanche. Grâce à lui, je suis sûr qu'il y a plein de milliers de Français qui vont mieux avoir fait leur carême. Donc, je suis heureuse.
Merci Marie-Josée. Je ne sais pas si c'était l'objectif visé, mais enfin, admettons.
Dans le froid et la vague.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 2 mars 1994, rediffusé dimanche 30 décembre 2012 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes au lieu du CD-ROM pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour le CD-ROM, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.